Ah, bonsoir à toutes et à tous. Vous pouvez répondre, c'est pas grave. Alors ce soir, j'ai pensé qu'il fallait qu'on fasse un cours sur la rancune et la vengeance. Ça fait longtemps qu'on a passé, et puis j'ai senti que... Non. Alors, c'est marqué dans la Torah, dans la parashat Kedushin, Lotikom et Lotitor. Tu ne te mangeras pas, tu ne garderas pas rancune. Et béné amécha, envers les enfants de ton peuple. Ve'avta le'ra'acha kamocha, tu aimeras ton prochain. Ani Hachem, je suis l'Éternel. Alors, c'est difficile de comprendre pourquoi est-ce que la Torah s'est sentie obligée d'enseigner deux interdits différents, d'accord? Nous, souvent, on a l'impression de les confondre un petit peu. Le fait que la Torah, le fait de garder rancune ou le fait de se venger, d'accord? Parce qu'une fois on se pense que ça c'est dans la tête, une fois c'est dans le corps, de vivre physiquement sa rancune, on appelle ça la vengeance. Mais on voit que la Torah, elle a formulé deux interdits différents. Alors, il faudrait qu'on comprenne. Deuxièmement, il faut voir aussi quand est-ce que ça s'applique réellement. C'est-à-dire quand est-ce que l'interdit existe. Et bien sûr, quel est son fondement dans l'être, à l'intérieur de la personne, comment ça fonctionne. Et après, il faudra voir quel est le lien qui existe entre Ve'afta, avec Ve'afta l'Eracha Kamocha. Pourquoi juste après? Pourquoi la Torah dit, tu ne te mangeras pas, tu gardes la part rancune. Et juste après, la Torah dit, tu aimeras ton prochain. Quel rapport? Et après, pourquoi ça se termine avec Ani Hachem, je suis l'Éternel? Quel rapport? Tout ça, on va essayer d'y répondre. Mais pour comprendre ça, il faut regarder une Gemara dans Yoma, Daf Kaf Gimel, que sûrement vous connaissez tous. Presque tous. Alors, c'est marqué comme ça. Tania. Donc c'est enseigné dans une braïta. Ezo in ekima ve ezo in etira. Qu'est-ce que c'est la vengeance et qu'est-ce que c'est la rancune? Nekima, donc la Gemara elle dit c'est quoi une vengeance? Amarlo ashileni magalecha. Il a dit prête-moi ta faux. C'est une faux. Amarlo lave. Il a dit non. Quand il a été chez son voisin, il a dit prête-moi une faux. Donc il a dit non. Ça arrive. Bon, Amarlo. Où? Alors, le lendemain, la personne qui a dit non, elle va emprunter chez la première qui lui a dit non, qui lui avait demandé, elle lui dit, Achilena Kardomecha, toi prête-moi maintenant ta pioche. Amarlo, il lui a dit, Eni Machilecha, je te prête pas. Kederer, chez Loïs Altani, comme toi tu ne m'as pas prêté. Ça c'est la vengeance. D'accord? Donc quelqu'un il vient chez moi, enfin moi je vais chez quelqu'un, je dis, est-ce que tu peux me prêter ça? Il me dit non. Le lendemain lui-même il vient m'emprunter, je lui dis, je te prête pas. Comme toi, tu m'as pas prêté, moi aussi, je te prête pas. Ça, c'est la vengeance. Après, la Gemara dit, mais Ezoïn et Tira, qu'est-ce que c'est la rancune? Amarle, Achilin, Kardomecha. Il dit, prête-moi, t'appelles. Amarle, l'eau. Il a dit non. Bon. Le Machar, Amarle, Achilin, Chaloukecha. Lendemain, celui, donc, à qui on a refusé, il va. Celui qui a refusé, le lendemain, il va pour demander, prête-moi une veste. Amarlo. Il dit, Elech, la voilà. Eni Kamotecha, je suis pas comme toi, chez le Shaltani, que toi, tu m'as pas prêté. Ça c'est quoi? La rancune. Pourquoi? Tu vois la rancune, puisque de toute façon il lui donne. Il dit non, la rancune, c'est que ça prouve que depuis hier, il a gardé en son cœur. Ça va? Alors maintenant, on ne va pas rentrer trop dans les détails du pile-poule, parce que je ne veux pas non plus vous faire une entorse cervicale. Mais, ici la Gemara, elle pose la question et elle demande, il y a deux types de... Il y a Tsahara de Goufa, il y a deux types de douleurs. Il y a Tsahara de Goufa, il y a une douleur physique. Mais Tsahara de Mamona, il y a une douleur d'argent. D'accord? Et la Gemara, elle explique qu'en vérité, ça, on appelle ça comment? Ça, on appelle ça Tsahara de Mamona. Ça, c'est une douleur d'argent. Et Tsahara de Goufa, c'est quoi? C'est une douleur physique, c'est quand la personne fait honte. C'est-à-dire qu'il y a deux types de cas où la Torah, elle a envisagé que je pouvais avoir un problème avec l'autre, et que là-dessus, la Torah, elle a dit que j'ai un interdit d'avoir de la rancune ou de la vengeance. C'est quoi? C'est quand la personne me fait honte ou quand la personne me fait un problème d'argent. Maintenant, voilà l'exemple de la Guémara pour qu'est-ce que c'est un problème d'argent. Ça veut dire quoi? Alors le Ramban, il explique, il dit, si quelqu'un me doit réellement d'argent, par exemple quelqu'un, vous avez fait un business avec lui, il vous doit 10 000 francs. Ou alors il y a une dette, ou il vous a cassé la voiture. Donc il y a une vraie loi d'argent. Là, il n'y a aucun problème de rancune. Vous comprenez? Si par exemple j'ai un procès avec quelqu'un, ça fait 10 ans que ça dure, parce qu'il me doit 100 000 francs. Maintenant pendant 10 ans, je l'ai dans la tête les 100 000 francs, et je lui en veux, et je l'emmène au bed-in, et ça traîne pendant 10 ans. Et puis là, il n'y a pas de problème de rancune. De la même manière, si quelqu'un m'a blessé, m'a fait une vraie blessure physique, et que pour ça je dois l'emmener au bed-in, Moi, je pourrais dire, allez, c'est pas grave, laisse tomber, c'est un autre juif, comme toi. Laisse... Non, il dit là-dessus. La Torah, elle n'a pas dit, tu ne garderas pas rancune, tu ne te vengeras pas. C'est-à-dire que quand moi, j'ai des exigences selon la halakha pour quelqu'un qui donne de l'argent, oui, ou quelqu'un, il m'a fait vraiment du mal physique, il n'y a pas d'interdit de rancune et de vengeance. Vous me suivez? Alors quand est-ce qu'il y a la rancune et la vengeance? Quand il y a une douleur morale, ou alors une douleur physique, c'est quoi? Une douleur d'argent, c'est quoi? C'est ce type de cas. C'est une personne, regardez bien, à qui j'ai demandé de me rendre un service, et qui ne m'a pas rendu un service. Donc c'est une personne qui aurait pu me faire du bien, et qui ne m'a pas fait du bien. Oui? Maintenant, cette personne-là, elle m'a rien fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle m'a rien fait. Mais elle aurait pu me faire du bien, elle m'a pas fait du bien. Donc maintenant, conclusion de la Guémara. Dans quel cas est-ce qu'on a un interdit de garder rancune et de se venger de quelqu'un qui t'a fait honte? Oui. Donc toi, t'as envie de lui faire honte, ou t'as envie de te moquer de lui, ou t'as envie de lui en vouloir. Oui. Là, la Torah, elle a dit attention, c'est interdit. Ou de quelqu'un qui aurait pu te faire du bien, mais qui ne t'a pas fait du bien. Ça veut dire que quelqu'un qui t'a fait un vrai problème, ouais, il n'y a pas de problème de rancune, parce que tu vas à l'obédine. Maintenant, le fait d'aller au bédine, c'est légal, il n'y a pas de problème de rancune. C'est-à-dire, ouais, pourquoi tu es comme ça? Attends, tu m'as cassé le bras, je t'emmène au bédine. Tu me dois 10 000 francs, je t'emmène au bédine. Ah, tu dis, alors t'es rancunier alors, en quelque sorte. Non, il n'y a aucun problème de rancune là-dessus. La rancune, elle est quand quelqu'un il m'a fait honte, ou quand quelqu'un il aurait pu me faire du bien, il ne m'a pas fait du bien. Vous me suivez? Donc ça veut dire que la Torah, elle a interdit d'en vouloir à quelqu'un qui t'a rien fait. Mais heureusement. Je sais pas si vous sentez le problème. Faut que j'en vois, il n'y a personne, tu vois. Tu comprends? Tu veux pas t'asseoir là? Ça m'aide. Merci. Merci beaucoup, Khadak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est incroyable. La Torah, elle est venue, elle m'a dit, attention à toi, l'otikom et l'otitor. Tu ne garderas pas rancune et tu ne te vengeras pas. Envers qui? Envers quelqu'un qui t'a rien fait. Mais évidemment que tu ne dois pas te venger pour quelqu'un qui t'a rien fait. Essaye de comprendre. Moi, je vais chez quelqu'un. Je lui dis, prête-moi ta pelle. Il me dit non. Bon. Alors je dis, tu sais, tu aurais pu me la prêter. Tu ne me l'as pas prêtée. Alors pour ça, je vais t'en vouloir. Premièrement, il a le choix. Oui ou non. Deuxièmement, s'il ne le fait pas, peut-être qu'il a une bonne raison. Alors c'est là-dessus que la Torah, elle m'a dit, fais attention de ne pas garder rancune. Mais je dis, mais la Torah, elle parle pas aux malades mentaux. Mais il faut avoir les casse-croûtes, il faut juger positivement. Eh bien peut-être que l'autre, il a une bonne raison, peut-être que l'autre, il ne peut pas. Peut-être qu'il n'est pas capable, laissez tranquille. Ah non, c'est à ce moment-là que toi, tu auras un yetzerara, sous-entendu, de lui en vouloir, et que la Torah, elle est obligée de te dire, attention, c'est interdit. Bon, qu'est-ce que j'aurais dit? Moi, j'aurais dit, quand quelqu'un m'a fait une vraie crasse, une vraie, homologuée, 9002, oui. Alors là, j'aurais dit, la Torah me dit, attention, je sens qu'il va avoir de la rancune, je te dis, attention, assure d'être rancunier. Mais quand quelqu'un il t'a fait une vraie crasse, on dit, il n'y a pas de problème de rancune, parce que tu vas au Belgique, gentiment, tranquillement, tu vas dire, écoutez monsieur, on va faire un constat, on va amener les huissiers, on va aller au Belgique, vous allez payer, il n'y a pas de problème de rancune. Quand est-ce qu'il y a un problème de rancune? Quand la personne, elle t'a rien fait. C'est-à-dire que la Torah, elle pense, qu'en fond, on a un yetzerara d'en vouloir à quelqu'un quand il ne nous a rien fait. Je comprends rien. Moi, j'en veux à quelqu'un quand tu m'as fait quelque chose, pas quand tu m'as rien fait. Et en plus, qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? Il aurait pu me faire, mais il m'a pas fait. Quelqu'un, positivement, il me fait du mal. Ça, c'est celui qui te fait honte. Quelqu'un, négativement, il te fait du mal. Comment négativement on fait du mal? Parce qu'on ne fait pas du bien. Il y a des places, il y a trois places. Je ne sais pas pourquoi vous êtes debout. Ça me fatigue. Asseyez-vous. Non. Oui. Quelqu'un, il peut faire du bien et il fait pas du bien, alors automatiquement, la Torah, elle dit, l'otikom et l'otitor, tu as un interdit de garder rancune. Bizarre, hein? Alors venez, on va essayer de comprendre. Pourquoi? Alors ça, c'est la fameuse histoire de la clé à molette que je raconte tous les ans, une fois par an, au cours du mardi. Je suis obligé de la raconter à cause de la rada. Vous savez que nous sommes très attachés au minagim. C'est quoi l'histoire de la clé à molette? C'est un grand moussard, faut la connaître. Un jour, un type, il va chez son voisin pour emprunter une clé à molette. Avant de taper à la porte, il dit, bon, je vais emprunter une clé à molette. Mais peut-être que ce monsieur, il n'a pas de clé à molette. Et même s'il en a une, peut-être qu'il ne peut pas la prêter. Et peut-être qu'il en a besoin. Et peut-être qu'il l'utilise juste à ce moment-là. Et peut-être qu'elle appartient à sa grand-mère. Peut-être que c'est un souvenir. Et peut-être que c'est un fétiche. Et peut-être que c'est un porte-bonheur. Il est en train de faire tout un truc. Juste à ce moment-là, le type, il va pour sortir. Il ouvre la porte. Il va pour sortir. Alors l'autre, il voit, il dit, qu'est-ce que tu veux? Alors l'autre, il dit, t'as que la molette, tu peux te la garder. C'est une blague qui est connue, pour ceux qui la connaissent. Mais en vérité, elle est très très profonde. Pourquoi? Parce qu'elle révèle exactement le phénomène de la rancune, comment il fonctionne. C'est quoi? Toi, tu m'as rien fait, mais moi, j'ai fait un rêve dans ma tête. Toi, tu m'as rien dit, mais moi, j'ai fait un scénario dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un scénario dans ta tête à toi. En vérité, il n'y avait rien. Vous comprenez ou non? Il n'y avait rien. Moi, je pouvais dire, voilà la clé, ou non, je ne te donne pas la clé. Alors, c'est un principe qu'il faut avoir en tête. Vous savez, dans la vie, on est plusieurs. On n'est pas seul, j'ai eu l'occasion de remarquer. J'insiste lourdement, parce qu'il y a des gens, ils se marient, et ils ont des enfants, ils ont toujours pas compris qu'ils ne sont pas seuls. Mais, bon, donc, j'insiste un peu. Donc, quelqu'un, il sait qu'il n'est pas seul. Quand on est plusieurs dans la vie, aujourd'hui, c'est un collègue de travail, demain, c'est une épouse, demain, c'est un enfant, demain, c'est un parent, il faut savoir que l'autre, c'est quelqu'un d'autre. Donc, puisque c'est quelqu'un d'autre, donc moi, qui suis une personne objective, je sais que quand je vais lui demander quelque chose à cette personne-là, elle peut dire oui ou elle peut dire non. D'accord? Alors, il y a un phénomène psychiatrique qui est très bizarre. Pourquoi, quand la personne dit non, je suis déçu? Je sais que la personne, elle peut dire oui ou elle peut dire non. Alors, pourquoi je me vexe quand elle dit non? Puisque quand je lui ai demandé, ça veut dire que je pensais qu'elle pouvait dire non. Parce que pourquoi je lui ai demandé? Enfin, je dis à quelqu'un, tu peux venir dimanche après-midi m'aider? Maintenant, quand je lui pose la question, je lui ai pas dit, tu sais dimanche, tu viens m'aider. J'aurais pu faire ça. Mais je suis un peu poli. Alors je lui dis, est-ce que tu pourrais venir dimanche après-midi? Donc je lui pose la question. Donc puisque je pose la question, ça veut dire que moi, objectivement, je pense qu'il peut dire oui ou il peut dire non. Alors pourquoi je me vexe quand il dit non? Non seulement je me vexe, mais en plus je lui dis, de toute façon j'en étais sûr. Alors tu lui dis, pourquoi t'as posé la question? De toute façon, les mecs comme toi, on les connaît. Ben, pourquoi t'as posé la question? C'est très bizarre, ouais. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, au fond, j'ai un a priori que l'autre, pas il peut dire oui, il doit dire oui. Il doit dire oui. D'accord? Alors nous, on va essayer d'analyser. Pourquoi ça me fait tellement de mal quand il dit non? C'est la vie, hein. C'est le type, il achète un tac au tac. Il va gratter. Bon, bah, il y a 5 millions de francs, ou il n'y a rien. Oui? Maintenant, s'il n'y a rien, il va acheter un fusil pour tuer le vendeur? Il dit, mais vous êtes un voleur. Comment je viens, je mets 5 francs ou 10 francs, je gratte, il n'y a rien! Mais rien! Pas un rien, rien! Vous avez compris? Tu dis, bon, au moins rien, un petit rien, quelque chose. Mais rien, rien! Tu dis, excusez-moi, monsieur, c'est un jeu, c'est marqué dessus. Chacun sa chance. Alors, ça veut dire que j'ai pas de chance. C'est ce que vous voulez dire? Moi, j'ai rien dit, monsieur. Vous venez, vous achetez, vous grattez. Mais dites tout de suite que j'ai pas de nasal. Ah ben voilà, je suis maudit. Tu dis, mais il est fou, celui-là. Il part dans son film. Mais c'est exactement pareil. Je vous souhaite pas. Hein. Si un jour vous avez un problème avec quelqu'un, bon, au prochain, je sais que vous êtes deux genres de personnes qui n'avaient aucun problème. Mais si un jour vous avez un problème avec quelqu'un, vous allez voir que les choses, elles fonctionnent comme une réaction atomique en chaîne. D'accord, t'as fait une gaffe, à tort ou à raison. Et l'autre, il démarre. Tu vois, il est en train de faire... Tu dis, oh. Pourtant, ce que t'as fait au départ, ça n'a rien à voir. Pourquoi il y a toujours une disproportion entre la gaffe et la réaction? Alors, on va dire que t'as gaffé. Ça va, t'as gaffé. Mais t'as vu la disproportion? L'autre, t'as déplacé un vase. L'autre, il te fait Hiroshima. Pourquoi il y a une telle disproportion? Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre, en fait, comment ça fonctionne. C'est marqué, juste avant, l'otikom vilotitor, c'est marqué, l'otisnet achisam bilvavera. Tu ne devras pas haïr ton prochain dans ton cœur. C'est quoi la haine? Alors, on avait expliqué déjà que la haine, c'est le scénario que je développe pour éviter d'avoir à assumer la coexistence avec l'autre. Puisqu'on est plusieurs sur la Terre, et qu'on est tous différents, parce que nous sommes des êtres uniques. Donc, s'il y a une chose qui peut me remettre en cause, par excellence, c'est l'autre, parce que l'autre est différent de moi. Maintenant, ou moi je vais accepter la différence de l'autre, ou moi je vais refuser la différence de l'autre. Mais la différence de l'autre, elle existe. Maintenant, il y a des gens qui vivent dans le monde de l'enfance, d'accord, ce qu'on appelle les Walt Disneyers, ouais, qui pensent que on est tous pareils, ou alors que tout le monde est comme eux. Ces gens qui sont dans Walt Disney. Donc toute leur vie, ils rencontrent des gens différents et ils sont très déçus. Tu sais, j'ai souvent été déçu par les autres. C'est normal, puisque ce sont les autres. Le principal, c'est qu'ils soient déçus par toi. Parce que toi, t'es toi-même. Mais si quelqu'un n'est pas lui-même, et si les autres, par la force des choses, ne sont pas lui non plus, parce que c'est rare de se rencontrer, il y a des gens qui se croisent, mais c'est rare, donc on a plus de chances de rencontrer des gens différents que de rencontrer des gens qui sont comme vous. Ou comme nous. Vous voyez ? Donc on a plus de chances de souffrir que d'être heureux dans la vie. Puisque quand tu te lèves le matin, il y a 6 milliards de personnes qui ne te ressemblent pas. Alors si toi tu es heureux quand on va dans ton sens, mais tu vas mourir. Donc d'exister, c'est la mort maintenant. Parce qu'on est tous différents. Alors, c'est quoi le problème ? Le problème, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, c'est qu'une personne, elle a un devoir d'existence. Elle doit exister. Elle a un deuxième devoir, c'est la coexistence. C'est de réussir à exister avec l'autre. Mais le problème, ça va dépendre si moi, j'ai réglé mes problèmes d'existence, et deuxièmement, si moi, je suis prêt à accepter l'existence de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas être agressé par l'existence de l'autre ? Est-ce que je ne vais pas avoir l'impression que l'autre, en existant, il va m'agresser, il va me remettre en cause mon existence ? Alors, c'est quoi le problème ? C'est simple. Si moi, je suis différent, et exister, c'est quoi ? C'est la projection de ce que je suis. Donc, j'existe moi-même. Lui, il existe lui-même. Normalement, si les deux, on est honnête, on va exister différent, parce qu'on est honnête. Maintenant, il y a des gens, pour parler, gêner les autres, au lieu d'exister eux-mêmes, ils existent les autres. Je sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, ils s'adaptent. Ils se moulent à l'autre. Tu dis blanc, il dit blanc. Tu dis noir, il dit noir. T'as jamais de problème avec lui. Parce qu'il n'existe pas. Parce que s'il existe, il va être obligé d'être différent, parce qu'il est unique. Comme par exemple, il y a des gens qui s'écrasent pendant 15 ans, ils s'écrasent. Ils disent rien, je dis rien, j'ai rien. Ils ont été élevés comme ça, tu sais, quand on était là-bas. Ma mère m'a toujours dit, ma fille ferme-la. C'est pour ça qu'elle a épousé un schéma. Ouais. Bon, alors elle se la ferme. Et puis un jour, elle éclate. Elle éclate. Elle a une grave maladie, ou là, elle fait une thérapie, ou quoi, son psy lui dit, mais enfin, faut pas vous laisser faire. Madame ferme-la. Madame schéma, excusez-moi. Ouais. Alors, elle dit à son mari, eh ben chérie, c'est fini, je me laisserai plus faire. Alors son mari lui dit, oh là là, tu t'es émancipée, tu es devenue une femme moderne, depuis que tu travailles. Elle dit, c'est pas depuis que je travaille, ça y est, j'en ai marre de m'écraser, ça peut être l'inverse. Moi j'ai dit, la femme, ça peut être le mari. Ça y est, il y a aussi, vous savez, ça existe, SOS, homme battu. Ouais. Il y a des maris qui sont écrasés, ils ont des femmes. Top bozard comme ça. C'est bon? C'est bon ce que je t'ai fait ou non? Ça a de la chance, je t'ai rien fait. Il y a des femmes comme ça, Blenara. Ouais. Ce qu'on appelle des mensch. Enfin, des femmes, ouais. Alors, et le mari, il sait rien. Il dit, je dérange pas trop? T'as pas que j'écoute, non? Ah, il y a des maris. Alors, un jour, il est 4. Alors, la femme a dit, mais comment tu étais, comment tu es devenu? J'avais... Un homme, qu'est-ce que je dis un homme? Pff, une serpillière. Et maintenant, voilà que... Monsieur, il se prend des airs. Monsieur, il a son mot à dire. Son mot à dire. Ah bon, si on veut exister, il vaut mieux commencer tôt. Parce que quand tu commences tard, les autres sont pas préparés, ils sont pas habitués. C'est comme si tu as un patron qui est très dur, et toi, tu es que les barres de service. Ouais, à quatre pattes, à quatre pattes, à quatre pattes. Un jour, tu dis non. Tu dis prud'homme. Mais quoi? Quel mot t'as dit? Quel mot t'as prononcé? Prud'homme? Mais tu te crois en l'an 2000 ou quoi? Il sait pas. Il a pas vu qu'on a quitté l'Ouganda. Il croit qu'on est encore là-bas. Pourquoi? Parce que toi qui l'as habitué. Je vous ai déjà expliqué. Les imbéciles fabriquent des malins. Et les malins, ils fabriquent des imbéciles. Attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, à force de faire le NIA, tu l'as rendu exigeant. Pourquoi? Parce que t'as pas existé. Alors existe, comme ça l'autre il va s'habituer à ton existence. Mais si l'autre il s'est habitué à ton inexistence, mais vous savez, c'est vachement confortable l'inexistence de l'autre. C'est super confortable. Il y a pas de gêne, tout va très bien, ça avance, ça roule. Oui, tu dis bon allez on s'en va. Mais tu n'aimes pas la montagne. On s'en va, ça fait 15 ans qu'on parle de la montagne. Ben oui, ben je te dis aujourd'hui j'aime pas la montagne. Ben je l'aime pas, j'aime plus, je peux plus la voir, je la vomis. Bon écoute, tu te la fermes, on comprends pas. Si j'aime pas, j'aime plus, je veux bien voir.
C'est une toile de la montagne.
Alors tu dis, tu m'as trahi parce que ça fait 15 ans que tu m'as rien dit. On dit, oui, mais je voulais te faire plaisir. Alors c'est quoi faire plaisir maintenant? Allez, on dit, faire plaisir, c'est mourir un peu tous les jours. Non, de faire plaisir sans mourir, c'est simple. Moi j'existe, toi t'existes. D'accord? Maintenant, toute la vie, c'est quoi? C'est une confrontation de coexistence. Alors, soit on va exister en même temps et on s'arrange parce qu'on a des qualités, soit on existe chacun son tour, mais on accepte d'exister chacun son tour. Oui? Mais chacun son tour, c'est pas chacun tous les 15 ans. C'est pas chacun tous les 10 ans. C'est en même temps. Ou chacun son tour. Par exemple, toi tu parles, moi je me tais. Après moi je parle, toi tu te tais. On coexiste. Parce que parler, c'est exister. Donc moi je tiens compte de ta parole, toi tu tiens compte de la mienne. On avance. Maintenant, encore une fois, si exister c'est difficile, pourquoi? Parce que moi je suis agressé par l'existence de l'autre. Mais pourquoi je suis agressé par l'existence? Parce que moi je me suis habitué à ne pas tenir compte de l'existence des autres. Mais si moi depuis que je suis petit, on m'a expliqué, tu sais mon fils, t'es pas seul au monde. Oui? Tu rentres, t'as fait un match de foot, t'as les pieds tout pourris debout, tu rentres à la maison, ta mère ça fait 6 heures qu'elle a kick, tu rentres, tu marches avec... Je vais pas te frapper, mais je vais juste te demander, tu trouves ça normal? Ton père, il a fait le marché. Ton père, il a 60 ans, il a ramené 5 kilos d'oranges. Tu reviens de la piscine, tu dis, tiens, je vais me faire un jus d'orange. Tu prends 5 kilos, tu les presses. Ça fait 4 verres. Ton père, il te voit en train de boire les 4 verres. Il dit, j'ai 60 piges, je me suis tapé une heure de marche dans le froid pour que ce hamor, au lieu d'acheter un jus d'orange à 3 francs, il s'est pris un jus d'orange. Ah, papa, ton jus, comme ça! Tu dis, mais t'es bête ou quoi? Tu réfléchis pas? Prends une orange, dis merci à ton père, prends une orange, et va te chercher un jus! Ah, tu dis, non, mais attends, je vais descendre, il fait froid. Il fait froid. Pourquoi il y a des gens qui tardent pour mourir? Faut de mourir tôt. C'est mi-chemin. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à partir du moment où moi, j'ai pas compris qu'on est plusieurs dans le monde, et que je dois tenir compte de l'existence de l'autre, mais je vais souffrir. Qu'est-ce qu'il a dit, comment ça s'appelle? Sartre. Vous savez Sartre? Vous savez, non? Non? Le fils de Tartre, ouais. Sartre, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit l'enfer, c'est les autres. C'est beau quand même. L'enfer, c'est les autres. Tu te lèves le matin, c'est les gens qui se demandent, est-ce que l'enfer existe? Est-ce qu'on ira en enfer? Mais lundi, c'est l'enfer, mon frère. Vous avez vu? Il est bien, hein? Il a raison, non? C'est faux. C'est faux. Non seulement l'enfer, c'est pas les autres, mais en plus, les autres, c'est le paradis. Tu sais pourquoi? Parce que comment un homme, il va au paradis? Parce qu'il se dépasse. Grâce à qui il se dépasse? Grâce aux autres. Donc les autres, c'est la clé du paradis. Exactement l'enfer, l'inverse de ce qu'on pense. C'est-à-dire que, c'est vrai que c'est difficile, les autres. Parce qu'ils sont pas toujours d'accord avec toi, ils vont pas toujours dans ton sens, et puis ils sont différents de toi, ils sont tellement... Vous savez, comme quelqu'un, des fois, il me dit, vous savez, moi, j'ai épousé quelqu'un de tellement différent. Est-ce qu'il me fallait épouser votre mère? Mais évidemment qu'il est différent, l'autre. Ben, on rassume qu'il est différent. On n'est pas des malades mentaux, non? Il est différent. Oui, mais l'autre, il est tellement différent. Je sais pas si on dit, moi, tellement. Essayez de vous rendre compte. On est tous des êtres uniques. Donc, ils sont vachement différents, les autres. Je sais pas si vous essayez de faire le lien qui existe entre un diamant et un frigidaire de bonne qualité. Il y a bien un rapport. C'est que les deux ont de la valeur. C'est tout. Donc, deux personnes ont de la valeur, mais elles sont extrêmement différentes. Donc lui, il est très froid, c'est tempérament frigo. Bon. L'autre, il est brillant, c'est une femme brillante, elle est brillante. L'autre, il rassure, il est froid, il est chaud, il a de la place, il est en magazine, tout ça. C'est tempérament frigo. Mais il est un peu froid. Il a du mal à s'ouvrir, il fait un peu lourd. Bon. Mais, l'autre, elle est brillante, mais elle est fragile. Elle est aléatoire, il faut que la bague, elle soit solide, parce que sinon... Donc on est tous différents. Mais quel rapport entre un frigo et un diamant? Je sais pas. Mais on est différents. Donc toi, ce que tu vas faire, tu vas t'adapter à l'autre. Mais si tu n'arrives pas à t'adapter à l'autre, la différence de l'autre, elle devient une agression. Alors je vous dis, il faut éduquer les enfants très jeunes. Parce que sinon, toute la vie, ça va être une agression. Alors l'agression, ça commence. Genre l'autre, il est différent. Après l'autre, il m'en veut. Après, ça y est, t'es parano déjà. D'accord? Après mytho. Bah ça augmente, hein. Après psycho, après l'hosto. Ouais. Ah ouais, c'est le dernier niveau. En fin de compte de quoi? simplement parce que t'as pas compris que l'autre c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi. Alors où est-ce qu'elle est la puissance? Regardez cette puissance de la Torah. Je vous ai expliqué déjà que si le but c'est d'exister, le but du Yetzara c'est de t'empêcher d'exister. Pourquoi? Parce que le Yetzara il existe à ta place. D'accord? Parce que c'est marqué Rechaim, Bechaim, Ikraim, Metim. Les fauteurs de leur vivant sont appelés morts. Pourquoi? Parce que le Yetzara, il existe à ta place. C'est-à-dire, il te dit quoi faire, il te dit quoi penser, il te dit quoi dire. Donc, puisqu'il existe à ta place, toi, t'existes pas. D'accord? Alors, dites-moi, quelqu'un qui n'existe pas, parce que c'est son Yetzara qui existe à sa place, il doit avoir une frustration extraordinaire de ne pas exister. Oui ou non? Oui! Eh ben, puisqu'il a une frustration de ne pas exister, vous savez ce qu'il fait? Il en veut à tout le monde d'exister, puisqu'il n'existe pas. Deuxièmement, il en veut à tout le monde de ne pas exister à sa place, puisqu'il n'existe pas. Et bien regardez bien, tous les Rechaïm, ils sont immatures, et tous les Rechaïm, ils ont des taranotes. Ils ont des réclamations. Toujours. C'est pas normal. Pourquoi il a fait ça? Et pourquoi il m'a pas aidé? Pourquoi il m'a pas apporté? Et quand j'ai eu besoin, où il était? Et c'est facile de parler, et il faut agir. Pourquoi ils ont toujours des réclamations? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas. Parce que quelqu'un qui existe, il assume. Et ben, quand il assume, il n'a pas besoin de quelqu'un. Mais celui qui assume pas, il a tellement honte de ne pas assumer qu'il reproche au monde entier de ne pas assumer à sa place. Mais l'autre, il dit, mais je peux pas assumer à ta place. Je peux pas vivre ta vie. Je peux pas exister à ta place. L'autre, il dit, mais t'aurais pu m'aider, t'aurais pu me dire, t'aurais pu me sauver. Mais t'as 34 ans. Moi, j'ai honte de rentrer dans ta vie. Je te respecte. Oui ou non? Et ça, c'est quoi, ça? C'est ce qu'on appelle un système en double autoblocage. Parce que les gens, ils sont têtus et susceptibles. Je sais pas si vous sentez le problème. C'est que quand tu veux les aider, ils n'ont pas besoin. Et quand tu les aides pas, ils disent, pourquoi tu m'as pas aidé? T'es mort. T'es foutu. Ça s'appelle système autobloquant à double fermeture. Fermeture intérieure, fermeture extérieure. Bloqué. Pour vous donner une image physique, c'est comme si vous freinez, mais vous freinez tellement fort que la plaque de frein, elle fond, le disque, il fond, l'ABS, il fond, la jante, elle fond, l'axe de la roue, elle fond, et elle s'assimile avec le goudron. Ce qu'on appelle en psychologie des gens coincés. Ils sont coincés. Et tu peux rien faire. Tu dis en avant? Non. En arrière? Non. Tu fais rien. À cause de qui? De toi. C'est ta faute à toi. Et tu peux rien faire, hein? Pourquoi tu me regardes? Qui t'a dit de me parler? Pourquoi tu m'as pas parlé? T'es mort. Tu peux rien faire. Pourquoi? Parce que comme eux, ils ont un problème d'existence qu'ils n'arrivent pas à gérer, donc toi, tu deviens le bouc émissaire de leur non-existence. Ce qui est abominable. Je sais pas si vous sentez. C'est comme si un type, il a tué quelqu'un, après il va chez toi, il dit, t'es un sale meurtrier. C'est comme si quelqu'un il s'est tué lui-même et il te reproche à toi de pas lui avoir donné la vie. Tu dis, mais je t'ai pas empêché de vivre. Oui, mais il fallait m'aider. Et t'as pas été là quand j'ai eu besoin de toi. Écoute. La plus grande mission au monde qui existe, c'est l'accouchement. D'accord? Vous pouvez demander à n'importe quel obstétricien, l'accouchement, c'est un phénomène qui est entièrement naturel. C'est-à-dire que la mère n'intervient pas dans l'accouchement. Elle n'intervient pas. Les muscles de l'abdomen se contractent et se décontractent pour faire avancer le bébé. Le ventre, il sort seul. Le bébé, il sort seul. La preuve, quand la femme, elle est sous péridurale, le bébé, il sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accouchement, c'est un phénomène naturel. Or, un homme, il doit s'accoucher de lui-même, naturellement. Tout le monde voudrait exister avec péridurale. Vous comprenez ça? On voudrait tous avoir des sages-femmes autour de nous qui nous disent, eh ben tu sais quoi, tu pourrais me faire grandir, tu pourrais m'aider, tu pourrais m'encourager, tu pourrais m'aimer, tu pourrais... Mais, débrouille-toi. Débrouille-toi. Et si vraiment tu peux pas, je suis prêt à t'aider. Mais je vais pas t'aider, je vais pas te remplacer. Je vais pas exister à ta place, faut que t'existes. Alors c'est quoi la rancune? La rancune, c'est que moi, j'ai fait une tentative de coexistence avec toi. Et quand j'y arrivais pas, j'ai eu tellement honte de pas y arriver, qu'il faut que je trouve un dossier justificatif de mon échec. Alors je vais écrire un scénario qui s'appelle la non-coexistence. C'est ça la haine, c'est ça la rancune. Parce que sinon vous ne comprenez pas une chose. Il y a deux personnes qui ont un problème. Je ne sais pas si vous avez sûrement essayé de faire une fois le shalom entre deux personnes. D'accord. Alors vous allez voir un, vous allez voir l'autre. Vous n'avez pas remarqué que chacun a un scénario différent. Et en plus, les gens, non seulement ils ont un scénario différent, mais en plus ils ont un scénario qui est auto-régénérant. C'est tu lui dis ça, il dit, ah mais il y a ça, et il y a ça aussi, et ça, et il n'y a pas que ça. Ça c'est quand tu parles des faits. Quand tu as dépassé les faits, tu dis, voilà, je t'ai prouvé que, c'est pas, que ça ne s'est pas passé comme ça. L'autre il dit, oui mais attends, il y a la psychiatrie. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans sa tête. Et à cause de sa mère, et à cause de son père, et tu ne connais pas sa sœur. Et il y a 8 ans, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Et une fois, il a failli le... Mais il a failli le... Bon, il l'a pas fait. Et il a failli le... Si je ne l'avais pas empêché. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de fabriquer un monde virtuel pour justifier une lourdeur réelle. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à coexister. C'est quoi coexister? Moi, j'accepte ma différence. Et j'accepte la tienne. Toi, t'acceptes ta différence. Et t'acceptes la mienne. On va faire coïncider les différences. Regardez. Une prise mâle et une prise femelle, ça se ressemble pas. Ça n'a aucun rapport. Et pourtant, tu les branches, et le courant passe. Mais est-ce que t'es prêt à accepter qu'une prise mâle et une prise femelle soient pareilles? Ah non, non, non. Ah non. Moi, je suis comme je suis. Mais toi, tu dois t'adapter à moi. C'est une grande blague. Moi, il faut me prendre comme je suis, moi. Moi, je suis comme ça, moi. Moi, je changerai pas. Toi, par contre, il faut que tu fasses des efforts pour t'adapter à moi. L'autre, il va dire. Il dit, mais pas du tout. C'est moi qui suis comme je suis. Et toi, tu vas t'adapter à moi. Ça peut durer longtemps, l'histoire. Des fois, ça dure des années. Hein. Il reste comme ça. Paf, un en face de l'autre. Alors, tu dis, c'est bizarre. Moi, je veux la paix. Donc, a priori, moi, ça ne me concerne pas l'histoire. Parce que moi, je viens pour les aider. Mais, est-ce qu'eux, ils veulent la paix? Si quelqu'un développe une énergie extraordinaire pour avoir la guerre, peut-être qu'il ne veut pas la paix. Moi, qui suis un grand IA de l'espace, j'ai mis longtemps à comprendre ça. Les gens, ils veulent pas la paix. Ils veulent la guerre. Pourquoi? Parce que le mot shalom en hébreu, il s'écrit shalem. Shalem, ça veut dire entier. Être entier avec l'autre, c'est très dur. Alors les gens, pour éviter d'avoir à subir d'être entier, il faut qu'ils trouvent de... pour expliquer pourquoi ils ne sont pas entiers. Et s'il n'y a pas assez d'arguments dans la réalité, ils vont en trouver dans le virtuel. Et tu sors des scénarios. Tu dis, mais il n'y a rien de vérifié là-dedans. Non, 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 écoute. Hein? Écoute, tu la connais pas, tu sais pas comment elle va, tu connais pas mon mari, tu connais pas mon frère, tu connais pas... Moi, écoute, moi je le connais, moi j'ai vécu avec lui, moi... Je dis, mais attends, t'es un type intelligent. C'est une fille intelligente. Tu t'arranges avec tes voisins, tes copains, tes cousins, ta sœur, tes clients, tes patrons, tout le monde, tu t'arranges. Rien qu'avec l'autre, tu ne t'arranges pas. Tu sais pourquoi? Parce que toi, t'es à l'intérieur. D'accord? Et toi, tu dois exister. Mais quand on existe, il y a toujours une part de risque. C'est quoi? C'est est-ce que l'autre, il va être en face pour me tenir la main? Si l'autre ne tient pas la main, t'es déçu. Surtout si toi, t'es sûr que la coexistence, c'est que l'autre te tienne la main. Essaye d'imaginer la surprise du trapéziste quand il arrive au bout du 4e salto avant et qu'il n'y a personne en face. Vous comprenez? Il a lâché son trapèze. Il a fait les 4 saltos, il a fait ce qu'il avait à faire. Il fait comme ça, et d'un seul coup, il se rappelle que la représentation, c'est deux mains. Donc le trapèze d'en face, il est vide, il n'y a personne. Et lui, il dit, à demain. Ben, c'est exactement pareil. Moi, je suis dans ma caverne, toi, tu es dans ta caverne. D'accord? Donc, on n'existe pas. Après, on se dit, tiens, écoute, tu sais quoi? Je vais exister. Alors, je dis, moi, je veux bien exister, mais à condition que l'autre, il existe en même temps. Mais mon frère, l'autre, il ne va pas forcément exister en même temps. Peut-être qu'il ne va pas être là, le moment où tu as envie d'être là. Alors tu dis, moi comment? Moi, alors c'est dur d'exister, j'ai fait un effort d'existence, et l'autre, il n'est même pas capable d'optimiser mes tentatives d'existence. Alors je lui en veux. Pourquoi? Regardez bien. Parce qu'il m'empêche d'exister. Maintenant moi, je me balade dans le monde, je suis Hachem. et j'ai décidé que toi, tu vas être un partenaire d'existence pour moi. Par exemple, moi je dis j'ai besoin d'une pelle. J'ai besoin de cette pelle pour travailler cet après-midi. Donc je vais chez toi. Donc puisque je suis le bon Dieu, donc toi tu dois me donner la pelle. Alors toi tu me dis, mais moi, j'ai besoin de la pelle. Toi tu me dis, mais comment? Tu m'empêches d'exister. Tu dis, non, j'ai besoin de la pelle pour exister moi aussi. Moi je dis, mais qui t'a dit que tu as le droit d'exister, toi? Ça veut dire que c'est vrai que l'autre, il m'a rien fait de mal. Il m'a rien empêché d'exister. Maintenant, mais c'est quoi l'erreur? C'est que moi, j'ai déterminé que c'est l'autre qui allait être mon vecteur d'existence. C'est-à-dire que tous les gens à qui j'en veux, c'est des gens que j'ai décidé que c'est eux qui vont m'aider à exister. Donc si eux, ils m'aident pas à exister, moi, je considère qu'ils m'ont empêché d'exister. Or, c'est tellement dur d'exister que celui qui m'empêche d'exister, j'ai la haine contre lui. Alors attention, au départ, je vais pour exister avec lui. Si j'arrive pas à exister, vite je re-rentre à l'intérieur, celui qui va me faire sortir, il n'est pas né. Hein. Ah, tu dis, mais comment je fais pour pas sortir, c'est ridicule de ne pas exister. Enfin, t'as 30 ans, c'est ridicule de ne pas exister. Alors je vais inventer un scénario pour expliquer pourquoi j'existe pas. Comment s'appelle ça? La haine. La rancune. La rancune, c'est le scénario justificatif de la non-coexistence et de la non-existence. Mais quelqu'un, il peut tellement être, regardez bien, tellement être troublé, tellement être angoissé, tellement avoir peur de ne pas exister, mais il peut devenir muet. Il peut devenir autiste. Pourquoi? Parce qu'il dit, comment j'ai, moi, j'ai essayé d'exister et personne ne m'a aidé, et bien à ce moment-là, ben j'existe plus. Ben, à un niveau moins grave, on appelle ça faire la tronche. C'est vrai, c'est la tête, voilà. Oui, c'est la tête, oui, oui. Je dis, bon, ça va, écoute, bon, j'ai fait une erreur. Peut-être que j'ai pas fait d'erreur, on va essayer de s'arranger. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Mais c'est rien passé. Oui, oui, mais c'est trop facile de dénigrer. Mais il n'y a rien eu. Tu veux que je dénigre quoi? Il n'y a rien. Comprenez ou non? Pourquoi il se bat? Pourquoi elle se bat? Pour la guerre. Sabota, il a paix, c'est Shalem. Shalem, c'est de faire un avec l'autre. Mais comme c'est dur de faire un avec l'autre, c'est plus facile de faire deux. Alors il faut que je trouve la raison de faire deux. Alors, je vais fabriquer ça. Comment je le fais? Je me détache de la réalité et je rêve. Regardez. Pourquoi est-ce qu'on a plus peur dans le noir qu'à la lumière? Quelqu'un, il est dans une caverne. Je trouve cet exemple facile à comprendre. Vous êtes dans une caverne. Et vous entendez un petit bruit comme ça. Vous entendez... Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une petite souris. Ça peut être un gros rat comme ça. Ça peut être un dinosaure qui se réveille. Ça peut être un vampire qui a faim. Il a senti la chair fraîche. Il fait... Comme t'es dans le noir, tu peux tout imaginer. Comme tu peux tout imaginer, t'as peur. Quand la lumière est allumée, t'as pas peur. Parce que tu vois. Alors, t'entends... Tu vois, bon, c'est une souris. Oh, c'est une souris. Oh. Bon, c'est vrai que... Bon. Vous savez qu'une souris ne peut pas avaler plus que son volume, vous savez. Non, faut le savoir, il y a des gens qui ont peur des souris, il faut leur dire, une souris, même si elle te mange, elle mettra du temps. Tu auras largement le temps d'appeler la police. Non, au cas où vous êtes attaqué par une souris, je vous rassure, hein, non, faut pas... Au cafard, ou la... C'est quoi le principe? C'est de dire, pourquoi dans l'obscurité on a peur, et à la lumière on n'a pas peur? Mais dis-moi, les vampires, peut-être qu'il est transparent. Le dinosaure, peut-être qu'il fait partie d'une dimension magique. Pourquoi t'as peur? Dans l'obscurité. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'obscurité, ton imagination, elle est libre. Mais à la lumière, ton imagination, elle n'est pas libre. Puisque, regardez bien, la réalité s'impose à toi. C'est quoi la haine? La haine, c'est le fantasme que je fabrique pour ne pas assumer la réalité. Donc la seule manière d'arrêter la haine, c'est d'accepter la réalité. Par exemple, là, tu dis, écoute, il y a un malentendu. Il y a un malentendu. Donc je voulais pas dire ça, je voulais dire ça. Je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Je m'adressais pas à toi, je m'adressais à l'autre. J'étais en train de réciter une scène de théâtre, j'étais pas en train de t'insulter. Quand t'as pris le téléphone, je croyais que je parlais à mon voisin, je savais pas que c'était toi, papa. Donc je t'explique ce qui s'est passé. D'accord? Et c'est vrai, c'est logique, c'est acceptable. Pourquoi l'autre il accepte pas? Tu sais pourquoi? Parce que s'il accepte, premièrement, ça veut dire qu'il s'est planté. Deuxièmement, ça veut dire qu'il a fait une tentative de coexistence qui est restée stérile. Alors il s'est vexé. Il dit, je suis rien, quoi, je suis un nul, quoi. T'es en train de me dire, je suis nul, j'ai rien compris. Oh, tu sais, tout le monde peut se tromper, moi aussi j'aurais pu me tromper. Oui, mais bon, t'aurais pu toi, bon, j'aurais bien voulu, bon, mais pour l'instant, c'est moi. Donc je suis nul, bah c'est ça, me dis que je suis nul. C'est-à-dire quoi? Parce que si toi t'existes, alors moi ça veut dire que j'existe pas. Hein? C'est ça que tu veux dire? Parce que toi t'as existé, t'as réussi, moi j'ai existé, j'ai raté. Donc, moi j'ai raté mon existence. Alors moi j'existe pas, hein? C'est ça que tu veux me dire? Non, je veux pas dire ça, je veux dire, on a fait une tentative chacun de coexister, et puis on a tapé à côté, c'est pas grave, on va retaper ensemble. Ah non, 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 non. Ah, je vais pas refaire un effort et être déçu à nouveau. C'est que les gens, ils ont pas peur de se planter, ils ont peur d'être déçus. Après, ils ont l'appréhension de la peur d'être déçus. Après, ils ont la peur, de l'appréhension d'être déçus. Donc ils vont même pas prendre le risque. Ça veut dire que si quelqu'un, il ne s'entraîne pas trop à exister, si le Yetzer Hara, il existe à sa place. Donc si lui, il n'est pas habitué à l'existence, donc il n'est pas habitué aux échecs à l'existence, par exemple. Et les gens, ils souffrent du froid. Si ça, il fait froid. C'est très froid. C'est ça, il fait froid. Moi, je reste à la maison parce qu'il fait froid. Quand il fait froid, ben, moi, je reste à la maison parce que vous savez quoi? Il fait froid. Il y a des gens comme ça. D'accord? En plus, je viens d'arriver d'Israël. Israël, il fait très chaud. Puis là, il fait froid. Puis à la maison, j'ai le chauffage. Mais dehors, c'est pas chauffé. Vous savez que dehors, c'est pas chauffé. Vous êtes au courant? Eh ben, il fait très froid. Ceux-là, ils sont en train de quoi? Ils sont en train de s'expliquer pourquoi il fait froid. Donc ils ont froid. L'autre, il dit, bon écoute, il fait froid, ben, je mets un manteau, ben, j'ai une voiture, ben, je peux la préchauffer avant de rentrer, je peux envoyer Charles pour la... Je peux la garer au garage, il y a plein de solutions, mais il fait froid. Alors écoutez-moi bien, une fois pour toutes, à l'intérieur, il fait toujours chaud. Il fait chaud à l'intérieur. Parce que t'es un gros bébé, alors dedans, il fait chaud. Il fait chaud à l'intérieur, on est bien. Mais dehors, il fait toujours froid. Dehors, il fait toujours froid. Pourquoi? Parce que dehors, c'est le changement, c'est l'évolution. À l'intérieur, c'est les lauriers, c'est l'immobilisme. C'est toujours mieux l'immobilisme que le changement. Oui? Or, quand tu vas changer, il y aura un temps d'adaptation, il y aura une préparation. Qu'est-ce que tu dois faire? Et c'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Il faut éduquer les enfants qu'on va toute la vie, tu vas changer, mon fils. Donc, toute la vie, il y aura un effort d'adaptation. Maintenant, il y a des gens, ils veulent pas faire l'effort d'adaptation. Oh non, 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 oh, je vais pas encore changer. Alors, ils veulent pas changer. Ils aiment le confort. Mais dans le confort, il y a fort. Bah oui. Bah oui. Donc, il faut pas chercher le confort. Au contraire, il faut se remettre en cause. Oui. Alors, excusez-moi de vous le dire. Parce que je sais que je l'ai déjà dit cette année, mais je le redis parce que c'est trop important. Quelles que soient les conditions atmosphériques dans lesquelles vous vous trouvez, la piscine est toujours plus froide que ce à quoi vous vous attendez. Pourquoi? Parce que vous, vous êtes en dehors de l'eau. Bah quand vous allez rentrer dans l'eau, vous allez la trouver froide. Changement d'état. Deuxième chose, et ça aussi c'est très important, je m'excuse vraiment si je vous choque. Bah quand vous sortez de l'eau, il fait toujours plus froid que quand vous êtes dans l'eau. Moralité. Tous les changements ont besoin d'un temps d'adaptation. L'autre, il est marié. Il dit, je comprends pas. Quand j'étais célibataire, j'étais calme. Maintenant, je suis marié, je suis nerveux. Je dis, c'est normal, tu n'allais pas t'engueuler avec toi-même. Donc maintenant que t'es marié, il y a un temps d'adaptation que on est deux maintenant. Tu comprends? Tu t'assois par exemple, tu dis, tiens, je vais regarder le film. Alors elle dit, oh non. Tu dis, bah tu vois quand j'étais seul, j'avais pas ce problème. Toi tu dis, bah on est deux. Tu veux prendre la... Ah je prends la salle de bain. Ah bah non, je suis dedans. Ouais bah écoute, on est deux. Eh oh, oh, eh, on est deux. Toi tu dis, ah bah oui, bah tu sais quoi, je sais pas si je vais réussir à m'adapter. Hein. T'es pas obligé de te marier, tu n'es pas condamné. Hein. Y a pas de mirador à la porte de la maison. Ils ont pas compris? On est deux. Ça s'appelle un temps d'adaptation. Si Dieu veut, bientôt, vous allez avoir des enfants. Au premier, on rigole. Au troisième, on comprend. Au cinquième, on compatit. Oui. Ben, quand il y a un nouveau bébé qui rentre dans la maison, vous êtes bien adapté, d'accord? Ça vous a pris 6 mois, 7 mois, 8 mois, vous êtes bien adapté maintenant, on a compris. Alors la petite, elle en veut plus au bébé, elle lui marche plus sur la tête. La grande, elle a trouvé sa place. La deuxième, on lui a fait du cavote. C'est bon, tout fonctionne. La mère, elle se remet du blues. Le père, il comprend que, bon, maintenant, il faut qu'il... Tout le monde s'est adapté. Tout le monde. Il y a juste une bosse. C'est le prochain. Et une bosse. Ah bah oui, il va y avoir encore. À chaque fois qu'il y a un bébé qui rentre dans la maison, il y a à peu près 2 mois d'adaptation. C'est un autre rythme, une autre vitesse. Avant que tu te réveilles la nuit. Pareil. En plus, il a enfin... Vous savez que tous les bébés mangent. C'est une abomination. Et pas genre, il mange. 3 fois... Combien? Toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures? C'est pas vrai. C'est une piqûre. toutes les 6 heures. Il y a un temps d'adaptation. En plus, il crie. Tu ne peux pas parler gentiment. Toi, tu as envie, tu vas aux toilettes. Non, monsieur, il faut le changer. Tu voudrais le changer. En tu n'as c'est le vôtre, vous le gardez. Tu ne peux pas le changer. C'est-à-dire quoi? Il y a un temps d'adaptation. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? La vie, c'est une éternelle adaptation. Tu connais bien ton produit? Ton patron, il vient, il dit, on change de gamme. Oh non, c'est pas vrai. J'ai mis 10 ans à m'habituer à l'informatique. Oui, je sais, maintenant, fais des sandwichs. Non. Je peux pas mettre du ketchup dans le portable. Non! C'est la vie, c'est comme ça! T'as 35 ans. T'es prêt? Et tu sais que l'année prochaine, t'auras 36 ans? C'est pas vrai. Je suis pas prêt. Bah t'as intérêt à te préparer. Hein. Mais toute la vie c'est comme ça. Toute la vie c'est des changements. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'adapter au changement. Moi je vais exister, et ben je vais changer. Donc est-ce que je suis prêt à assumer, on va dire, le conditionnement au changement? Je vais m'adapter à l'autre, il y aura des changements. Ben, c'est comme ça toute la vie. Donc si moi je refuse, si moi je me suis pas adapté à changer, je vais souffrir du changement. Si moi je suis pas adapté à m'adapter, je vais souffrir de l'adaptation. Donc les règles générales, les gens qui n'existent pas ont des problèmes existentiels. Vous allez me dire, oh, qu'est-ce qu'il a ce soir? C'est évident. Mais je suis obligé de vous le dire. Les gens qui n'existent pas ont des problèmes existentiels. Les gens qui ne coexistent pas ont des problèmes coexistentiels. Ça veut dire que, pourquoi je le précise de manière lourde? Parce que maintenant, plus personne au monde, au moins dans ce cours, ne pourra dire, j'ai du mal à coexister, puisqu'il sait que ces problèmes de coexistence viennent de ces problèmes d'existence. Ça va être dur, hein. Il n'y a plus de questions maintenant. C'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas suivi le plan, c'est pas grave. Donc, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, à l'intérieur, je suis infini. Le monde extérieur, il est fini. Donc, déjà, je dois m'adapter entre la différence entre le monde du rêve et le monde de la réalité. Deuxièmement, moi, j'ai mon rêve, l'autre, il a son rêve. Comment on va coexister les deux rêves? Alors, quand moi je vis mon rêve, est-ce que l'autre s'inscrit dans mon rêve? Oui ou non? Alors, il faut que je fasse une place. Maintenant, le problème, c'est que le scénario, je l'écris à l'intérieur, mais je le vis à l'extérieur. Il faut jamais écrire un scénario à l'intérieur, il faut toujours l'écrire à l'extérieur. Parce que si tu l'écris à l'intérieur, tu t'es pas préparé. Alors, c'est quoi la rancune? C'est que tu as écrit une histoire, mais l'autre, il n'est pas dedans. Tu n'as pas remarqué? L'autre, il a toujours tort. Donc, tu as réécrit toute l'histoire. C'est-à-dire, toi, tu as vécu une situation. D'accord? L'autre, il était en face, toi, tu arrives. Un choc, déception, violence. D'accord? Tu viens, tu dis, je prends un tiers, je vais lui expliquer. Toi, tu as ta version, l'autre, il a sa version. Dans ta version, l'autre, il a toujours tort. D'accord? Alors, le tiers, il dit, je comprends pas. Vous étiez deux, comment ça fait que tu es seul? Il dit, ben, parce que moi, j'ai des bonnes raisons pour ce que j'ai fait. Mais l'autre, je sais rien! Alors vous allez expliquer que pour avoir la paix avec l'autre, il faut réussir non seulement à accepter l'autre, non seulement à écouter l'autre, mais c'est extrêmement violent ce que je vais vous dire, il faut être aussi capable d'argumenter le point de vue de l'autre. Si je dis mais je ne peux pas défendre le point de vue de l'autre puisque je ne le pense pas. Je dis mais tous tes problèmes ils viennent de là mon frère. C'est que quand tu arrives à argumenter le problème de l'autre, donc l'autre, ton problème et le sien c'est le même, maintenant tu peux superposer les deux visions. Mais si toi tu développes ta vision sans l'autre, et l'autre il développe la sienne sans toi, automatiquement, ça ne marchera jamais. C'est pour ça que la personne elle dit, je ne peux plus te voir. Parce qu'elle t'a enlevé du scénario. Elle a pris toute la bande du film, et partout où il y a ton visage qui apparaît, elle a gratté la pellicule. Donc quand elle revoit la pellicule, elle ne te voit pas. Donc elle dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais dans cette histoire? D'ailleurs c'est toi qui crée le problème. Donc il dit, mais je peux pas créer le problème tout seul, puisqu'il faut bien que je le crée avec quelqu'un. Puisque on s'est engueulé, je me suis pas engueulé seul. Donc quand la personne, elle dit, de toute façon, l'autre, il a 100% tort. Et moi, j'ai 100% raison. Tu sais, c'est débile. Tu sais pourquoi? Parce qu'on peut pas mettre 200% dans un bloc. Il faut 50-50 minimum. C'est comme si vous prenez une voiture monoplace et que vous mettez deux personnes. Tu te promets, ben, on était deux, hein, au départ. Ben, on a eu des problèmes. Donc on a pris une biplace. Et puis on s'est assis. Il y avait de la place pour les deux. Mais est-ce que moi je suis prêt à accepter que c'est une biplace? Alors, imagine-toi la vie, c'est une 6 milliards de places. qu'il y a de la place pour tout le monde. Deuxièmement, il y a de la place pour que tout le monde existe. C'est-à-dire que normalement, je ne dois pas être remis en cause par l'existence de l'autre. Pourquoi ? Parce que Dieu, il a fait que tout le monde peut exister. Alors moi, quand je le refuse ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je considère que l'autre, il est un échec à mon existence. Il met en échec mon existence. Mais en vérité, l'autre, il ne t'a jamais empêché d'exister. Alors prends le problème à l'envers. Toi, tu n'arrives pas à exister. Il faut que tu expliques pourquoi tu n'arrives pas à exister. Alors tu vas dire que c'est l'autre. On appelle ça le bouc émissaire. C'est l'autre qui dit, je ne vois pas en quoi je t'empêche d'exister. Il y a de la place pour tout le monde. Donc il faut que tu justifies ça. C'est pour ça que tu ne veux pas te confronter avec l'autre. C'est pour ça que tu ne veux pas t'expliquer. Regardez, tu ne veux pas expliquer. Parce que tu ne veux pas exister. Mais explique-toi. Dis-moi, allez, vas-y, dis-moi, allez. Ah non, non, non. De toute façon, tu vas me tourner en bourrique, et puis tu as toujours le dernier mot, et puis tu sais... Je comprends pas, je te propose de t'expliquer maintenant. Tu veux un tiers, tu veux un témoin, tu veux un juge, tu veux quoi? Tu veux un scanner? Qu'est-ce que tu veux? Ah non, 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 non. Ouais. C'est facile de dire ça, ouais. Oh, je les connais, oh, je vois où tu vas en venir. Oh là là, ouvre ta bouche. C'est aussi dur de faire la guerre que de faire la paix. La seule différence, c'est quand tu fais la guerre, ça coûte à l'autre, et quand tu fais la paix, ça te coûte à toi. Maintenant, est-ce que tu es prêt à ce que ça te coûte? Alors je te dis, les gens qui existent, ils n'ont pas de mal à coexister. Pourquoi? Parce que déjà, pour exister, il faut se dépasser. Donc quand quelqu'un il se dépasse pour lui, il peut se dépasser pour l'autre. Mais quand quelqu'un il a pas l'habitude de se dépasser, parce que c'est son yétera qui existe à sa place, donc lui, il ne se dépasse pas parce qu'il n'existe pas. Donc il a du mal à se dépasser pour l'autre. Si déjà pour lui, il n'est pas capable, alors il n'arrive pas. C'est ça que la Torah te dit, celui qui se respecte, il arrive à respecter l'autre, et celui qui respecte l'autre, il arrive à se respecter, parce que se respecter, c'est donner le droit d'exister. Mais si toi, tu ne te respectes pas, comment tu vas réussir à exister l'autre? Puisque de toute façon, un homme, il s'aime toujours plus que l'autre. Un homme, il s'aime plus qu'il aime l'autre. Donc si quelqu'un, il s'aime pas, comment il va aimer l'autre? Donc commence par t'aimer toi-même, tu vas voir, tu vas réussir à aimer l'autre. C'est marqué. Alors si c'est comme ça, ah voilà, c'est marqué dans Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Pourquoi c'est marqué Lotikom et c'est marqué Ve'afta? C'est marqué, tu ne te vengeras pas, tu ne te porteras pas rancune, et puis juste à côté, tu ne garderas pas rancune, et puis juste après c'est marqué Ve'afta, Ve'afta, comme ça tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors regardez ce qu'il dit le Rav Shimshon. Riouv les etiv imchavero bekocho bezmano begufo bemamono. Un homme il a une obligation de faire du bien à l'autre. D'accord, tu aimeras de faire du bien avec sa force, donc tu rends service, avec son temps, tu donnes du temps à l'autre, avec son argent, tu donnes de l'argent, tes zakats, avec son corps, tu donnes ton corps, ta force. Verata, regardez bien ce qu'il dit. Et maintenant, Hachem levakesh lislot berakshotenu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous demande de dominer nos sentiments. Vekach nitrayavnu. Et ainsi, nous sommes obligés, les avis à korban à cacher beyoter, d'amener le sacrifice le plus difficile. C'est quoi? Tu dis, qu'est-ce qu'on va te demander? Déjà, tu dois donner déjà ton temps à l'autre, tu dois donner ton argent, tu dois donner tes nerfs, tu dois donner ta force, tu donnes tout! Ah, toi, il y a une chose que tu as du mal à donner. C'est quoi? Les avir mili benou, d'enlever de notre cœur, kol regesh nekima, Vénétira, d'enlever de notre cœur tout sentiment de rancune et de vengeance. Vézé bgia bekavod. Et ça c'est quoi? C'est une blessure au kavod, au respect de la personne. Je dis franchement, la première fois que j'ai lu ça, je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il veut? C'est très profond là, Shimshon Raphaël Hirsch. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, les gens qui sont habitués au cours du mardi peuvent comprendre. On a dit que le kavod, c'est quoi? C'est le droit d'être. Quand tu respectes quelqu'un, tu lui donnes le droit d'être. Quand tu te respectes, c'est-à-dire que tu te donnes le droit d'être. Par exemple, quand la Torah elle te dit qu'il ne faut pas écouter l'Yetzara, parce que l'Yetzara il te dit mets-toi à quatre pattes, sois un chien. Ça l'Yetzara. Sois un chien. Alors, toi, tu te respectes, tu dis excusez-moi, moi, je ne veux pas être un chien. Ça veut dire je ne veux pas être au chien, soumis au chien qui est en moi. Donc, regardez bien. Pour être soi-même, tu es obligé de dépasser ton chien. Comme tu es obligé de dépasser ton corps. Par exemple, tu as envie de manger. Alors tu dis, oh, attends un peu, il y a des invités. Mais j'ai faim. Tu dis, mais attends un peu, c'est le kavod. Ça veut dire quoi? Laisse-le exister. Maintenant, si toi tu manges et l'autre il rentre. Salut, ouais, ça va. Tiens, t'es invité, t'es là, ouais. Ah bah je suis invité chez toi. Ah bah t'es invité, bah assieds-toi, bah mange. Bah, tu dis, eh, on n'est pas à l'étable ici. Ça veut dire quoi ce kavod? Puisque je t'ai invité, ça veut dire que je te donne priorité à ton existence. La preuve, je prends de ma vie à moi pour toi. Donc je te donne une priorité à ton existence. Ça le kavod. Le kavod, c'est que je te donne le droit d'exister. Mais attends, moi aussi j'ai le droit d'exister. Alors si moi j'existe à travers mon corps, donc je dis, mon corps il a faim, il veut exister mon corps, il a faim, mon corps. Je dis, bon, écoute, dépasse un peu ton corps, au profit de l'autre. L'autre dit, mais l'autre aussi, là, t'as bouffé. Mais l'autre, c'est pas un corps, l'autre, c'est une personne. Maintenant, si moi je respecte ma personne, et moi je respecte ta personne, les personnes n'ont pas de problème corporel. C'est les corps qui ont des problèmes corporels, les personnes n'ont pas de problème corporel. Maintenant, si moi, regardez bien, je dois écraser mon corps au profit de ta personne, je remets en cause mon kavod. Trois frais. Vous voulez plus abstrait? Toi, t'es là, moi, je suis là. Moi, je veux te donner à toi, toi, tu veux me donner à moi. On a dit, c'est quoi la bonté? C'est exister pour l'autre. Moi, j'existe pour toi, toi, tu existes pour moi. Mais moi, pour exister, il a fallu que je me dépasse. Par exemple, je t'ai fait un cadeau. 1000 balles, c'est un beau cadeau. Donc, quand moi, regardez bien, je t'ai donné 1000 francs, j'ai sacrifié 1000 francs sur l'autel de la bonté. D'accord? Maintenant, c'est 1000 francs, c'est pas grave, parce que tu m'aimes plus que 1000 francs. Ça dépend. Si tu m'achètes pour 1000 francs, c'est juste le prix. Mais si tu m'aimes plus que 1000 francs, donc tu existes pour moi au travers d'un geste qui est représenté par un objet qui s'appelle 1000 francs. Mais je vais exister pour toi. Donc moi, pour exister pour toi, il a fallu que je donne 1000 francs, parce que les 1000 francs, j'aurais pu les dépenser pour moi. Donc regardez bien, j'ai dépassé le matériel pour arriver à exister. D'accord? Maintenant, toi, t'es en face, tu reçois les 1000 francs. Tu dis merci. Mais c'est vachement dur de dire merci. Vous savez que c'est aussi dur de donner que de dire merci. Pourquoi? Parce que pour dire merci, moi je parle pas genre merci. Merci. Oh, merci. Non, ça c'est roté, ça. Non, merci, si quelqu'un, il fait un effort, il dit, ouais, je reconnais l'effort que tu as fourni. D'ailleurs, on le sent quand il y a un merci, qu'il y a un merci, un merci, qu'il y a un merci. Formalité. Maintenant, pour dire merci, alors moi je pourrais dire, mais garde ton fric, j'ai besoin de quelque chose, je me l'achète moi-même. Quand je suis touché, je suis bouleversé, je suis touché. C'est pas ici que je suis touché, c'est à l'intérieur. Comme toi tu as donné de ton intériorité, pour véhiculer la bonté, donc tu as existé pour moi, alors moi j'ai envie d'exister pour toi. Mais j'ai un écran à l'existence. J'arrive pas à exister, c'est quoi? L'orgueil. J'arrive pas à dire merci. Comment je vais dire merci? Alors, si je dis merci, c'est-à-dire j'ai besoin de toi. Mais si j'arrive à dire merci, c'est seulement au prix du sacrifice de l'orgueil. Donc regardez bien, toi pour donner, t'as sacrifié le matériel. Et moi pour donner, pour remercier, j'ai sacrifié l'orgueil. Or, pour se dépasser, faut toujours sacrifier quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui te rend petit? Deux choses. Le matériel et le moi. Qu'est-ce qui donne les limites à l'homme? Le moi, M-O-I. Quand vous dites à quelqu'un, tu peux faire ça, il dit, moi, je peux pas faire ça. Il a dit moi, ça veut dire M-O-I. 60 kilos, 1m80? Je peux pas. Je te dis, oublie 1m80. 1m60 kilos, tu vas réussir. Pour être grand, faut oublier d'être petit. Donc le moi, il t'empêche. C'est quoi le moi, la gave? Donc là, il y a un moi qui m'empêche, et là, il y a un corps qui m'empêche. L'argent, c'est l'excroissance du corps. Donc, toi, pour donner, t'as dépassé le matériel. Et toi, pour donner, t'as dépassé l'orgueil. Pour dire merci. Maintenant, toi qui as reçu, tu vas me donner demain. Quand tu vas me donner, tu vas dépasser le matériel. Et moi, pour te remercier, je vais dépasser l'orgueil. Donc moi, j'ai détruit l'orgueil et le matériel. Toi, t'as détruit l'orgueil et le matériel. C'est les deux choses qui nous séparent, donc maintenant, on va se retrouver. Mais si moi je conserve l'orgueil et le matériel, impossible qu'on se rapproche. Donc on avait expliqué, l'amour c'est quoi? Moi j'existe pour toi, toi t'existes pour moi. On va coexister. Mais si moi je suis pas prêt à exister pour toi, attention. Hein. Attention là. Et toi tu dis, moi non plus je vais pas exister pour toi. On va rester l'un à côté de l'autre, mais je vais pas exister pour toi. Il n'en est pas question. Hein. Alors automatiquement, il n'y a pas de coexistence, il n'y a pas d'amour. Or, c'est quoi la haine? On a dit que la haine, c'est le justificatif de la non-coexistence. C'est quoi la rancune? C'est le justificatif de la non-coexistence. Donc puisque j'arrive pas à coexister avec toi, pour expliquer pourquoi j'y arrive pas, je fabrique un scénario de non-coexistence. Oui? Donc l'amour, c'est la coexistence. La haine, c'est la non-coexistence. Comment on a dit, comment on arrive à coexister? Parce qu'on sacrifie quelque chose. Il dit maintenant, le Rav Shushan Raphaël Hirsch, le plus dur à sacrifier, c'est quoi? Rabotaille, on peut donner des forces. On peut donner de la bouffe, on peut donner du fric. C'est quoi le plus dur de donner? C'est de donner son existence. C'est le respect. D'accord? Maintenant, quand moi, je m'efface devant toi, je te donne du kavod. C'est quoi? C'est mon kavod à moi que je te donne à toi. Donc, quoi, toi, tu dis, quand toi, tu es prêt à me donner ton kavod, alors moi aussi, je suis prêt à me donner ton kavod. Je suis prêt à te donner mon kavod. D'accord? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le signe le plus ultime d'amour qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de lui donner son kavod. C'est pour ça que quelqu'un, il peut dire à sa femme, une femme, elle peut dire à son mari, elle peut dire, écoute, que j'ai tort ou que j'ai raison, je vais faire un avec toi. Maintenant, tort ou raison, c'est superficiel, c'est ponctuel. Un avec toi, c'est éternel, c'est global. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un lien global avec toi, je ne vais pas avoir un lien ponctuel. Je vais avoir un lien global. Donc moi, je ne vais pas avoir un lien superficiel, moi, je vais avoir un lien essentiel. Les gens qui ont des rapports essentiels, ils ont des problèmes essentiels et des solutions essentielles. Mais les gens qui ont des relations superficielles, orgueil, matériel. Matériel, orgueil. Orgueil, matériel. Donc s'il ne dépasse pas l'orgueil et s'il ne dépasse pas le matériel, qu'est-ce qui se croise? La face externe. Superficiel. S'il dépasse la face externe, il donne de l'essentiel. Les deux essentiels, amour. Donc la Torah, elle a dit, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune, tu aimeras ton prochain. C'est quoi tu aimeras? C'est tu feras un. La seule chose sur laquelle on peut faire un, c'est dans la coexistence, c'est-à-dire les deux volontés qui s'accomplissent l'une dans l'autre. C'est la seule, parce que les deux corps, ils font jamais un. Les deux psychiques, ils font jamais un. Les deux vécus, ils font jamais un à 100%. Tu resteras une femme, je resterai un homme. Tu resteras mon copain, je resterai ton copain. On fera jamais un à 100% dans les trois écrans. Psychique, physique, vécu, on fera jamais un. On va trouver des compromis de vécu, des compromis physique et des compromis psychiques. C'est que des compromis en vérité. Mais où est-ce qu'on peut vraiment faire un? C'est au niveau des deux âmes, des deux neshamot. Et c'est quoi l'amour? C'est que les deux âmes se rencontrent. Donc c'est quoi la haine? C'est empêcher les âmes de se rencontrer. C'est pour ça que c'est tellement puissant. Pour ça que c'est tellement fort. Pour ça que c'est tellement intérieur. Parce que c'est au niveau de l'âme. Donc il faut vraiment se dépasser pour faire un. Or, ce qu'il dit le Maharal, il dit maintenant la Torah, elle t'a demandé de garder, de donner le plus grand sacrifice, c'est quoi? C'est de donner le kavod. Or, où est-ce qu'elle est le grand paradoxe de la vie? C'est vrai qu'il y a de la place pour exister pour toi et pour moi, mais il faut qu'on existe chacun son tour. Tu sais pourquoi? Parce que moi je pourrais exister seul, toi tu pourrais exister seul, mais moi je peux être un moteur d'encouragement pour toi. Moi je peux t'aider à exister. Toi, tu peux m'aider à exister. Tu sais comment tu peux m'aider à exister? En existant pour moi. Et ça, tu le sais très bien. Tu sais pourquoi? Parce que quand on existe pour toi, toi, tu as envie d'exister pour les autres. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, la Torah? La Torah, elle dit, maintenant, tu as trois rôles à remplir. Premier rôle, c'est exister. Deuxième rôle, c'est faire exister. Troisième rôle, c'est coexister. Donc, toi, tu as une obligation d'aider l'autre à exister. Mais c'est dur de faire exister l'autre, parce qu'il faut s'intéresser à l'existence de l'autre. Alors, je te dis, mais t'es bien content quand l'autre, il s'intéresse à ton existence. D'accord? Donc pour arriver à la coexistence, je suis obligé de remettre en cause la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Ça, je vous ai dit, les gens qui n'existent pas ne peuvent pas coexister. On est obligé de rajouter, les gens qui n'arrivent pas à faire exister les autres, ils n'arrivent pas à coexister. Donc maintenant, pour exister avec l'autre, il faut exister et faire exister. Par exemple, des fois je dis à des gens, vous savez, la Torah dit qu'il faut donner à l'autre, et l'autre il va te rendre. Alors les gens toujours ils me disent, et si l'autre il rend pas? Et si l'autre il sait pas dire merci? Et si l'autre il sait pas reconnaître? Et il profite de la situation? Alors à ce moment-là, je leur réponds. Eh ben il y a des gens, dans la bonté, c'est de leur donner à manger, c'est de leur donner du temps, c'est de leur donner des nerfs. Il y a des gens, il faut même leur donner des leçons de remerciement. Il faut leur apprendre à dire merci. Il faut leur apprendre à reconnaître. Ah, il n'existe pas! Il faut lui apprendre à exister. Ça fait partie du chesed. Oui ou non? C'est quoi ça? C'est faire exister. Ça veut dire que t'as raison, t'as raison. L'autre, il est adulte, il devrait exister tout seul. T'as raison, je suis d'accord avec toi. T'as raison, tu croyais qu'il a 30 ans, t'as vu qu'il a 15 ans. D'accord, t'as raison. Et quand même, la Torah t'a dit, tu as une mitzvah d'aider l'autre à exister. Donc regardez bien, je dis, mais le temps que je vais passer à le faire exister, je vais pas m'occuper de ma propre existence. Alors Hachem te dit, non, ça c'est un grand secret. Quand j'ai un franc, quand je l'utilise pour l'autre, je dis, pour moi, je l'ai gaspillé. Je l'ai perdu. Vous savez, les gens qui sont donnés toute leur vie, ils disent, j'ai perdu mon temps. T'as rien perdu, mon frère. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah, elle t'a donné une grande bonté. Celui qui s'occupe de l'autre, Dieu, il s'occupe de lui. C'est quoi? Quand quelqu'un, il veut que l'autre, il évolue, lui, il évolue deux fois plus vite. Une fois, il y a un rave, qui avait une tête très rapide. Et il étudie avec un autre rave. Et lui, le pauvre, il était un peu lent. Très lent. Attention, de qui on parle? On parle du rave Elchanan Wasserman. Et on parle du... Graf Nathalie Trop. Maintenant, les deux, c'est des Géounim. Je dis tout de suite, hein. Si demain, vous n'avez rien à faire, enfin demain, si vous avez 3-4 ans, vous prenez un Dvar Torah de Graf Nathalie Trop. Restez. Une petite année comme ça, au-delà d'études. Ça, c'était le lent. Et Rav Elchanan Wasserman, il était rapide. Alors, Rav Elchanan Wasserman, donc par exemple, il posait une question, alors Rav Elchanan, il trouvait la réponse tout de suite. L'autre, il restait 4 ans à réfléchir. Rav Wasserman, il a écrit plusieurs vies. Rav Naftali, il a écrit un livre. Donc, un était lent, il était rapide. Alors, un jour, il a été demandé la question à un gadol. Il a dit, est-ce que c'est pas Bitoul Torah? Ouais. De rester comme ça devant un type lent, alors que moi, je suis rapide. C'est pas qu'il a dénigré, qu'il a dit l'autre, il est nul. Non, il a dit, peut-être que moi, je vais arriver là-haut, on va me dire, pourquoi t'as perdu ton temps? T'aurais dû aller étudier quelqu'un de rapide, pourquoi t'as étudié quelqu'un de lent? T'as perdu ton temps. Qu'est-ce qu'il a répondu le rave? Il a dit, mais peut-être que toi, t'es rapide. Parce que tu supportes que l'autre, il est lent. Et en récompense, Hachem, il te donne l'esprit rapide. Maintenant, ton Yetzara, qu'est-ce qu'il te dit? Peut-être que tu perds ton temps. Ça veut dire qu'on n'est jamais pareil à l'autre. Mais si Hachem, il nous met en face de quelqu'un qui est différent, ça veut dire qu'on a quelque chose à apprendre. Maintenant, si on est Raham, on va dire, je veux optimiser la différence. Si on est idiot, on va dire, je vais souffrir de la différence. Alors, on souffre et on souffre. Et là, la raison, l'enfer, c'est les autres. Parce que t'as pas compris que les autres, c'est la clé du paradis. Ah, mais c'est très dur. Il y a des moments, c'est trop dur. Non, je dis le contraire. Toi, tu vas tout faire. Tu vas exister, Razak. Tu vas faire exister, Razak. Tu vas coexister, Razak. Ah, si vraiment t'as tout fait, que ça marche pas, c'est un autre problème. C'est pas dit que t'es obligé de mourir pour l'autre, non plus. Oui? Mais en tout cas, on peut pas arriver à Véhasta, c'est-à-dire, faire un avec l'autre, si ce n'est parce que soi-même on existe et l'autre il existe. Donc la Torah elle t'a dit, il faut que tu sacrifies quelque chose pour te rapprocher de l'autre. Impossible de se rapprocher de l'autre sans sacrifier. C'est normal, parce que quand tu sacrifies, tu enlèves ce qui t'écarte de l'autre. Donc quand tu enlèves ce qui t'écarte et l'autre il enlève ce qui t'écarte, les deux vont vous rapprocher. Il y a deux fleuves qui coulent. La seule manière de les rapprocher, c'est d'enlever la terre au milieu. Donc quand on enlève la terre, on enlève le matériel, les deux spirituels ils se rencontrent. Les deux essentiels, ils se rencontrent. Exactement pareil. Alors maintenant, où il est le problème? C'est que puisque moi, à l'intérieur de moi, je suis infini, et que le monde, il est fini, donc moi, j'ai l'impression que si j'existe pas à l'infini, j'existe pas. Donc j'ai l'impression que tout ce qui fait écueil à mon existence, c'est m'empêcher d'exister. C'est quoi l'orgueil? C'est ce que c'est l'orgueil? L'orgueil, c'est une fuite d'existence. Imaginez une fuite de gaz. Vous savez, le gaz. Vous savez que le gaz, il a une proportion bizarre. C'est que il se développe dans le volume que vous lui donnez. Si un gaz, par exemple, vous lui donnez 10 mètres cubes, il prend 10 mètres cubes. Vous lui donnez 100 mètres cubes, il prend 100 mètres cubes. La Neshama, elle est infinie. Oui. Si vous, quelqu'un, il veut faire sortir la Neshama, elle prend toute la place. Puisqu'elle s'étend à l'infini, puisqu'elle est infinie. Or, la Neshama, dans le fini, elle prend toute la place. Ça va? C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est de croire que ta Neshama, elle a un... l'écrin qui s'appelle le monde. Ça veut dire que tout le monde entier, il est là pour que tu le remplisses. C'est quoi la ranava? La ranava, c'est de savoir que toi, à l'intérieur, t'es infini. Oui? Mais dans ce monde-ci, t'as une place qui est délimitée. C'est quoi, c'est toi? Comment les Chachamim expliquent la modestie? C'est Amakir et Mekomo, celui qui connaît sa place. Chacun connaît sa place. Tous les problèmes qu'on en a dans la vie, ça vient de quoi? Ça vient du fait que les gens connaissent pas leur place. Par exemple. Quelqu'un, son boulot, c'est ça. Il veut faire un autre boulot. Il s'improvise. Il dit, tiens, maintenant, je suis hôtelier. Alors, il se plante. Il a l'hôtel gratuit. pendant 20 ans en prison. D'accord. L'autre, il dit, moi, je suis informaticien. Non, il n'est pas. Mais il bricolise. Ah, il a planté le système informatique de Paribas. 400 millions de francs. Si, ben, je pensais que j'allais y arriver. Je sais que tu vas y arriver. C'est pas ton métier. Chacun fait son métier. C'est pareil. Un homme, il est grand. Il est fort. Alors, qu'il soit fort. S'il n'est pas fort, il va être malheureux. Et les autres vont être malheureux. Qu'est-ce qu'il est petit? Alors, qu'il soit petit, c'est pas grave. Vas-y, vous savez, pourquoi pas? Tu connais tes capacités! Vous comprenez ou non? T'as un bon stylo, écris un livre. Mais je suis pas écrivain. Eh ben, n'écris plus un livre. Fais un chèque. Pareil, il a signé quand même, non? L'autre, il a un talent extraordinaire. Prends un stylo, écris. Ah, si chacun était à sa place, on n'aurait pas de problème dans le monde. On n'aurait pas de problème. Tous les problèmes, ils viennent des gens qui se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas, c'est-à-dire de ce qu'ils ne sont pas. Qu'est-ce qu'il faut ici, toi? De quoi tu te mêles? Ben écoute, comme j'ai rien à faire de ma vie, alors je m'occupe de la tienne. Ben tu devrais t'occuper de la tienne, tu verrais, ça irait mieux. Que chacun s'occupe de sa vie. Bon, ça va aller très bien. Tu dis, mais je me sens responsable. Ne peut se sentir responsable qu'une personne qui est responsable. Donc comment tu peux te sentir responsable puisque tu es un irresponsable? Ah, t'as raison, j'ai jamais pensé à ça. Par contre, quelqu'un qui est responsable, il peut se sentir responsable des autres, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que comme il a fini de bosser pour lui, il peut bosser pour les autres maintenant. D'accord? Mais dis-moi, si un type il a peur du vertige, il va pas s'inscrire à la brigade des pompiers. Il est pas fou, le type. Il se met à pleurer en bas de l'échelle. J'oserais jamais. Mais qu'est-ce que tu fais, là, l'autre ici, là, quand il t'attend? Je pourrais pas. Pourquoi tu t'inscris? Parce que ma mère... T'es pas pompier, c'est pas grave. Sois ce que tu es. D'accord? Au lieu de rêver que tu vas être quelque chose et en attendant de l'aide, bah tu l'es pas. Je suis pas ici. Moi, quand je crois que l'autre, il a un échec à mon existence, c'est moi qui m'invente un film. Parce que l'autre, il m'empêche de rien. Parce que le plus grand partenaire de l'existence, c'est Dieu. Et Dieu, il t'a créé pour que tu existes. Alors toi, tu crois que la vie, elle t'empêche d'exister. Mais Dieu, il a créé la vie pour que tu existes. Tu crois que l'autre, il t'empêche d'exister, mais l'autre, il ne peut pas rentrer dans ta vie. Tu crois que Dieu t'empêche d'exister, mais Dieu, il t'a créé pour que tu existes. C'est comme les gens qui croient que leurs parents, ils leur en veulent. Mais tes parents, ils t'ont mis au monde pour toi, pas pour eux. Sinon, ils seraient restés tous les deux, tranquille. C'est comme les gens qui croient que les professeurs, le prof, il m'en veut. Moi, il m'aime pas. Moi, tout de suite, j'ai senti qu'il m'aimait pas. Parce que dès que je suis rentré, il m'a appelé le premier. C'est normal, il appelle par ordre alphabétique. Ouais, facile de répondre, facile. Tout de suite, il m'a cadré, celui-là. Tu t'inventes un film parce que tu as envie de glander en classe. Alors tu t'es trouvé que d'un seul coup, le prof, il est devenu nazi. Rien que pour toi. Et avec tout le monde, au Hachem, il est super cool. Hein. Rien qu'avec toi. Parce que toi, tu n'as pas envie de travailler, alors lui, il est devenu méchant. Parce que ça t'intéresse qu'il soit méchant, comme ça toi tu peux glander. J'étais emprisonné, j'étais bloqué, j'étais écrasé par son regard. Il m'a pris mon stylo. Tu m'étonnes si t'as pris ton stylo. Ouais, j'ai pas pu faire interrompre parce qu'il m'a pris mon stylo. Lequel il t'a pris? Ah bah celui, le deuxième, et le premier. Oh c'est vrai. Moi j'avais un autre stylo. C'est marqué ici. Pourquoi c'est comme ça? C'est marqué dans les Yerushalmi, dans les Darim Perektet, à la Hadalet. C'est le problème avec la Torah, c'est que tout est marqué. C'est très embêtant. Non, les gens disent, ah oui, c'est marqué. Non, oui. Une fois, quelqu'un m'a dit, tout est marqué dans la Torah. Je dis oui, même ta vie. Il me dit, ah. Je dis oui. Nous, on a accès à la Torah que Dieu a écrit pour Moshe Rabbeinu sur la vie, ce qui s'est passé. Mais le Midrash, il dit que Dieu, il est en train de réécrire un Sefer Torah maintenant. En haut, dans le ciel. C'est le nôtre. Et quand on va arriver là-haut, à la fin des temps, Hachem, il sort le Sefer Torah. On dit, comment qu'on parle de moi dans le Sefer Torah? Est-ce qu'on dit Rabbi William? On dit, non, on dit William tout court. Tiens, on t'a comparé à Rachid, il te compare à Korach. Ah bon? T'as de la chance, il aurait pu te comparer à Bilam. C'est marqué comme ça dans la Gemara. L'autre comme et l'autre tort. Ramda. La Torah a dit l'autre comme et l'autre tort. Tu ne dois pas te venger, tu ne dois pas garder rancune. Ramda, comment il va faire? Regardez, le Korban Aïda, un commentaire, il dit Mistaber. Sheimchol Adam al Elbono. Il dit, comment c'est possible qu'un homme, il puisse surmonter sa honte? C'est-à-dire quoi? Puisque la Torah, elle a dit qu'on n'a pas le droit d'être rancunier et d'avoir de se venger envers quelqu'un qui m'a fait honte, où on a dit qu'il n'a pas participé à mon existence. C'est ça le problème. Quand quelqu'un, j'attends un service, il ne me rend pas service, ça veut dire qu'il a refusé d'être vecteur de mon existence. Bon, il est occupé à la sienne, mais il aurait pu m'aider à exister, il a refusé. Bon. Donc quelqu'un qui ne m'a pas fait du bien, ou quelqu'un qui m'a fait honte, on a dit c'est là que c'est interdit. Alors, elle demande à Gmara, mais comment quelqu'un va se retenir? C'est entendu. Mais la rancune, c'est naturel. Quelqu'un fait une trace. Tu peux pas. Tu dis, oh non, bon, Hachem, ça dit Hachem, c'est pas grave, je suis là. On peut pas, c'est trop dur. Tu comptes sur quelqu'un, et t'attends qu'il te fait, et qu'il te rend, et tu viens et te dis non, tu vas pas lui en vouloir. Bon, tu vas pas lui faire une trace comme il t'a fait, d'accord, c'est déjà pas mal. Mais au moins dans ton cœur, tu vas le maudire. Au moins ça, moi la nuit, tu vas le blasphémer. Non, la Torah, non, elle dit non, rien. Pas de haine, pas de rancune, pas de vengeance, zéro. La Gemara a dit, mais c'est un réflexe naturel, on peut pas, c'est trop dur. Allez, c'est une belle trace. Ouais, il vient chez toi, il dit, tiens, tu peux me prêter ta voiture? Il dit, mais je viens de lâcher, tu m'as pas, je te promets, juste fais un tour. Il revient un quart d'heure après, tout blanc, il dit, excusez, je l'ai foutu dans un mur. Il vient de lâcher, je l'ai foutu dans un mur, je suis prêt, tiens, viens, on appelle l'assurance. Il dit, mais je partais à l'assurance maintenant. C'est ce qu'a dit le professeur Montgolfier. Oh, tu l'as tué. Il est mort. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Alors tout de suite, t'as une bouffée qui te monte. Elle t'aurait dit, ça fait une avéra, toi. Alors tu dis, au lieu de faire un top, moi je le tue. Moi je le tue. Après je te promets, je fais tes choix. Bon, moi je le tue, non, je le tue. Non, mais... Sourd. Je suis un homme, un sourd. Moi je lui mets un couteau dans l'œil. Moi, même s'il ne meurt pas, moi je lui mets un couteau, je lui remets la confiance. Ah non, sourd de blesser dans la Torah, sourd. Moi je l'insulte. Tu peux pas, tu vas pas faire honte quand même. Il m'a explosé ma bagnole. Dis, non. Moi je le garde dans mon cœur. Moi je viens au vœu. Ah, c'est shalom. C'est sourd. Tu vas pas lui en vouloir. C'est la Gemara, c'est pas possible. La Gemara dit, regardez, est-ce qu'il y a vide? Comment il va faire? Comment la Torah te dit, l'autre qui tombe et l'autre qui tord? C'est pas possible. Faut être humain. Manque de peau, la Torah est divine. Elle répond à la Gemara, elle donne un exemple. Elle dit, dis-moi, il y a un homme, il est en train de prendre de la viande. Il veut couper un morceau de viande. Il tient la viande dans une main. Dans l'autre main, il tient le couteau. Vous comprenez? Et puis il veut couper la viande. Et puis il essaye. Et le couteau, il glisse sur la viande. Vous savez, ça arrive, hein. Une viande de bœuf. Il glisse et ah, il s'entaille la main. On mettra maintenant. Âme sensible, s'abstenir. D'accord? J'ai acheté un panneau. Donc, il s'entaille la main. Alors elle dit à Gemara, est-ce que la main qui a été entaillée, elle va prendre le couteau et elle va entailler l'autre main? Deux. Ouais? Alors nous on dit, mais elle veut rien dire l'exemple de la Guémara, puisque les deux mains, elles font partie d'un même corps. C'est normal qu'une main, elle va pas couper une autre main, puisqu'elle fait partie d'un même corps. Alors la Torah, elle t'a dit, j'ai aftalé rafa kamocha, mon frère. On fait partie d'un même corps. C'est quand est-ce que tu vas comprendre que l'autre et toi, c'est un même corps? Comme un couteau? Est-ce que vous comprenez ça? C'est de la folie! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle dit, impossible que t'envoies à quelqu'un d'autre, puisque l'autre et toi, vous faites un. Il dit le Maharal de Prague, tous les Bnei-Israël, c'est un seul corps. D'accord? Donc vous avez remarqué que le corps, il est solidaire. Le mot solidaire, il vient de sol. Sol, ça veut dire un. Comme solitaire. Ouais? Maintenant, vous avez remarqué, quand quelqu'un, par exemple, il a une blessure à la main. Il a de la fièvre, il a mal à la tête. Il est tout engourdi. Tu dis, mais pourquoi tout le corps, il est malade, alors que moi, j'ai une petite blessure à la main? Parce qu'il y a une infection. Tu dis, parce que le corps, il est solidaire. Maintenant, toi, tu voles avec la main. Pourquoi on tape sur la tête? Tu dis, oh, c'est la main qui a tapé. Faut taper la main, faut taper la tête. C'est un seul corps, mon frère. C'est solidaire. Tu l'aimes, ton corps, à toi? On dit, tiens, t'as pas une main à me donner? Pas un coup de main, une main. Non, ça va aller. Un coup, par contre, si tu veux. On peut pas. Je sais pas, c'est mon corps. C'est mon corps, j'aime mon corps. Bodybuilding, j'adore mon corps. Vous comprenez ça ou non? Tu aimes ton corps. Les Bnei Israël, c'est un seul corps. Maintenant, il n'y a aucun membre qui est inutile dans un corps. Tous les corps sont utiles. Et tous les corps, tous les membres sont utiles les uns aux autres. Vous me suivez? Les poumons sont importants pour les doigts de pied. Tu dis, t'as rien compris. Mais les poumons, mon frère, oxygène, sang, système sanguin, doigts de pied, vivant. Le système sanguin est rempli dans les doigts de pied. Il est mort, le doigt de pied. Dis merci que le doigt de pied il est oxygéné par les poumons. Tout est utile. Tous les membres sont utiles à tous les membres. Tous les bénis Israël sont utiles à tous les bénis Israël. Tu dis, ah, moi je suis de la grande, mais l'autre, on est tous utiles les uns aux autres. Donc quand il y en a un qui est touché, tout le monde est touché. Tu peux dire, oh bah écoute, écoute, chacun sa vie. On va vous mettre dans le même camp, comme ça vous allez voir, vous faites partie du même camp. Puis on n'est pas du même camp, eh ben on vous met dans le même camp. Comme ça vous êtes dans le même camp. On est dans le même camp. Oui? Ah, des fois c'est dur, hein. J'aurais pas voir, moi, c'est racaille, là. C'est racaille. Il peut pas payer son loyer, il est obligé d'aller à Fresnes. Tu vas y aller bien à Fresnes, toi. C'est pas le malin. Tu veux qu'on fouille la compta? Non, ça va aller. Non. Il est comme toi, sauf que lui, c'est attrapé, c'est pareil. Ça va venir ton tour, si tu veux. Pas être jaloux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle dit la Torah, pour arriver à éviter l'otikom et l'otitor, la haine et la rancune, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aimer l'autre. On a déjà dit des centaines de fois qu'il n'y a pas une mitzvah d'aimer l'autre, ça n'existe pas. Tu dis, j'aime pas. Aimer, c'est comme le chocolat. Tu dis, j'aime le chocolat, j'aime pas le chocolat. La Torah te dit, il faut aimer le chocolat. Tu dis, j'aime pas le chocolat. La Torah t'a pas dit d'aimer. La Torah t'a dit, fais un avec l'autre. C'est vrai que quand tu vas faire un avec l'autre, automatiquement tu vas l'aimer. Mais le sentiment, oui, c'est la face externe de l'effort que tu fournis. Quel effort tu fournis, c'est que tu fais un avec l'autre. C'est quoi faire un avec l'autre? C'est coexister avec l'autre. Je dis, mais j'ai rien à voir. Débrouille-toi, fais un. Bon, allez, ça va. Je vais apprendre à l'écouter, je vais apprendre à faire un, je vais apprendre à exister, à coexister, je vais l'aider, je vais me sensibiliser, je vais construire avec lui, je vais faire. Bon, voilà, je fais un avec l'autre. Maintenant que tu fais un avec l'autre, tu peux pas lui en vouloir, parce que l'autre c'est toi. Attends, elle te dit, si tu accomplis Ve'afta, tu n'arriveras pas à l'Otikom. Comment tu arrives à l'Otikom parce que tu ne fais pas Ve'afta? Ve'afta, c'est quoi? Tu feras un. C'est quoi l'Otikom? Tu feras deux. Donc la haine, la rancune et la vengeance, c'est faire deux avec l'autre. Donc automatiquement, la Torah, elle a dit, l'Otikom, l'Otitor, l'Otisne, Ve'afta, elle a collé la paracha. C'est la même paracha. C'est le même mot. Vous comprenez ou non? Ensemble. Maintenant, si quelqu'un va dire, bon, d'accord, j'ai compris. Maintenant, l'autre, il m'a fait une crasse. J'ai un associé, d'accord? Sympa, on travaille ensemble depuis 10 ans. Et puis là, je viens de découvrir, bon, comme ça, en regardant dans la comptabilité, qu'il m'a planté 1 million de francs lourds. Alors, toi, tout de suite, tu me dis, oh, c'est lourd. Oui, c'est des francs lourds. Oui, c'est très lourd. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec lui, maintenant? Attends, elle me dit, attention, comment tu vas t'arranger? Rabotai, je vous pose une question idiote. J'aime bien la question idiote parce que ils ne sont souvent pas idiotes. Si quelqu'un, il tombe par terre, il glisse, il y a un parterre glissant, il a plu, il glisse et son postérieur se rapproche très rapidement du parterre et il subit une pression de 12 kilos sur son derrière. Ce qu'on appelle une chute, ça arrive. D'accord? Il est tombé par terre, il a subi une pression de 12 kilos. Ça fait mal, hein. 12 kilos, il peut avoir un bleu. Hein. En souvenir, parce qu'il aime bien les souvenirs. Donc il a un bleu de 12 kilos. Il a reçu un coup de 12 kilos. Dis-moi, cette personne-là qui s'est cassée la figure, à cet endroit-là, et elle sait très bien où ça s'est passé. Hein. Et elle connaît ce bout de par terre. Elle l'oubliera jamais. Est-ce qu'elle va venir tous les jours pour l'insulter? Est-ce qu'elle va lui en vouloir? Elle va avoir la rancune? Est-ce qu'elle va venir la nuit avec un marteau piqueur? On va lui dire, tiens, pourriture! Qu'est-ce qu'elle dit, la personne? Quand elle se casse la figure et qu'elle se prend 12 kilos dans le derrière, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, autant pour moi. Il y a qu'à faire attention, hein? Elle m'a dit, la vendeuse de chaussures, elle m'a dit, monsieur, mettez des patins en plisard à pont. J'ai dit, non, vous savez, 10 ans de patins à glace! 10 ans de patins à glace! Ton derrière! D'accord? Alors moi, je te pose une question idiote. Là, voilà la question idiote. Écoutez-la bien. Si je passe dans la rue et quelqu'un il me met un coup de pied de 12 kilos de pression, pourquoi je lui en veux? Ça fait qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi à chaque fois que je vais le voir, je vais avoir la haine contre lui? Pourquoi je vais l'insulter? Pourquoi je vais le maudire? Pourquoi je vais avoir de la rancune? Pourquoi je vais vouloir me venger? Mais j'ai reçu un coup de pied de 12 kilos. Quelle différence avec le par terre? C'était pas une question. Excusez-moi, t'es habitué. Non, si je commence les questions, c'est mort. Déjà, il est 10h20, je suis à Amma comme ça, parce qu'il me reste 10 minutes. Pourquoi je lui en veux, la personne? Alors, je dis, mais c'est pas pareil, parce que c'est une personne. C'est pas le parterre. Et la personne, elle a une conscience. Ouais. Et la conscience, elle sait ce qu'elle fait. Donc, délibérément, d'ailleurs, je lui dis, t'as fait exprès. Il dit, non, je te promets, t'as fait exprès. Bah, il est fou, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade avec une photo d'un ballon de football derrière. Oh, tu dis, excuse-moi, c'est... Et ça, oh PSG vient de perdre, j'ai vu le but en face de moi, j'ai... Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu des têtes, t'as envie de taper tant. Bah, c'est vrai. Tu marches dans la rue, il y a un type qui ramasse son portefeuille. Tu vois ça, tu dis, mais ça se présentera une fois dans la vie, ça. Tu lui mets un coup. Toi, tu le kiffes trop, tu dis, excusez-moi, vraiment, je... Il lève la tête, tu vois que c'est ton inspecteur des impôts, tu kiffes deux fois. Excusez-moi, je kiffe trop, j'en peux plus, c'est trop. Je crois que je vais perdre la maman. Mais vous êtes malade! Je vais payer, je vais à l'hôpital, ça va me coûter, je vais aller en tôle, mais c'était trop bon. Comment tu vas faire? C'est trop difficile, la bataille, ça y est, ça. Pourquoi tu lui en veux à la personne? Alors écoutez-moi bien. Quand quelqu'un me fait une crasse, oui, il y a toujours deux éléments. Ça veut dire que l'événement, il faut le couper en deux. Il y a la crasse que je reçois, et il y a le fait que ce soit lui qui me la donne. Maintenant, moi, j'arrive pas à séparer les deux. Moi, je dis, lui, il m'a fait une crasse. Lui, il m'a fait une crasse. Mais Rabotaï, c'est faux. Jamais, écoutez-moi bien, jamais une personne ne peut rentrer dans ta vie, ça n'existe pas. Sauf si toi, tu ouvres la porte. C'est par exemple, si tu vas voir quelqu'un, tu dis, mets-moi une baffe. Il te met la baffe. Tu peux pas dire, c'est Mina Shamaï. Tu dis, Mina Shamaï. C'est pareil. Si t'es idiot, et que l'autre, il te roule, c'est pas Mina Shamaï. C'est idiot. Tu dis, mais, il m'a roulé. Oh, c'est une capara, Mina Shamaï. Mais t'as pas lu le contrat. Le mec, il a dit, ce compte, s'il vous rapporte 2%, et ce compte, s'il vous coûte, il vous coûtera 113%. C'est le compte qui perd gagne. Tu dis, mais comment tu reçois ton premier relevé? Tu dis, je comprends pas, j'ai eu 7% de bénéfices cette année, et j'ai eu 173% d'imposition. Mais c'est pas possible! Mais bien sûr, c'est marqué dans le contrat. Mais non, t'as pas lu le contrat. C'est pas Mina Shamaï. C'est pas Mina Shamaï. Vous comprenez ou non? Bah! Oui? T'es un bah! Allez, bah! Y'a pas de Mina Shamaï! Donc quelqu'un, il saute par la fenêtre, il appelle Dieu, il dit, adieu! Qu'est-ce qu'il dit Dieu? À tout de suite! Bah, ça va! Il arrive! C'est logique! C'est pareil. Il dit, maintenant, moi, si j'arrive à comprendre, je dis, voilà, il y a deux événements. Il y a un événement qui est, j'ai pris une crasse d'1 million de francs. Il y a un événement, c'est lui qui m'a fait subir la crasse. Moi, je dois bien comprendre. Jamais quelqu'un ne peut rentrer dans ma vie, sauf si moi, j'ouvre la porte. Donc, moi, je ne vais pas l'ouvrir la porte. Donc, si j'ai pris la crasse, d'où elle vient la crasse? Le patron. Maintenant, le patron, il choisit. Il propose, vous avez dans le journal des appels d'offres. Ouais. La municipalité de Vercamvoy cherche pour un chantier. Alors, appel d'offres. Toi, tu réponds. C'est pareil. HM, il fait appel d'offres. Il dit, HM, il dit, voilà, il me faudrait un tzaddik. Alors, donc chacun dans sa conscience, il entend. On cherche un tzaddik. Alors, il y en a qui lèvent la main, il y en a qui disent, excuse-moi, je suis occupé. Bon. Au contraire. HM, il dit, il faudra un rachat. Bon, il lève la main. Ouais, je veux bien. Alors, c'est libre arbitre. Dieu, il met en place la réalité. Dans la réalité, il y a des acteurs. Il y a des acteurs bien et des acteurs mauvais. Dieu, il veut des acteurs. Alors, il fait un appel, il met à l'entrée. Aujourd'hui, Avera, 14h30, avec tel. Il me faudrait un bal Avera. Je dis, pas de problème. Je suis là, vous savez, moi. Ah, moi, quand faut y aller. Quel sacrifice. Il se sacrifie, c'est vrai, il va brûler au Guéhenna, le pauvre. Ouais, il a offert son corps au four. D'accord. Le contraire. Ou du bien ou du mal. Maintenant, le fait qu'il soit devenu vecteur du mal, ça, c'est son propre chef. Je suis d'accord avec toi. Il transporte le mal. Mais le mal lui-même, d'où il vient? Il vient de Dieu. Maintenant, Dieu ne fait jamais du mal. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Dieu, il t'envoie ce que tu mérites. Donc toi, tu mérites une treha à 1 million de francs. Tu dis, c'est quoi une treha à 1 million de francs? Par exemple, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, et il adore l'argent, et pour lui, 100 francs, c'est 100 francs. Vraiment, 100 francs pour lui, c'est 100 francs. Faut pas lui prendre 100 francs. 100 francs, c'est 100 francs. Quand il est au magasin, il magouille, il trafique, il essaie de gagner 1 franc, parce que 1 franc, c'est 1 franc, et 100 francs, c'est 100 francs. Et ce mec-là, il a pris la femme de son copain. Adultère. Alors Hachem, il a fait 1 million de francs. Il l'a planté 1 million. Maintenant, pour lui, 1 million, c'est comme si quelqu'un, on lui fait une prise de sang, mais au lieu de lui enlever 30 centilitres, on lui enlève 5 litres. Je vais vous faire juste une petite prise de sang, je vous prends juste 5 litres. Hein? Il faut penser aux autres, tout le monde a besoin de sang. Alors vous allez donner 5 litres. Mais j'ai que 5 litres, c'est pas grave. Mais après on vous donne un petit sandwich. Mais je vais mourir. Mais c'est pas grave, il faut être prêt à mourir pour que les autres vivent. Tu peux pas. L'autre, tu lui as pris 1 million de francs, il est mort. Il y a des gens comme ça, des pauvres. Tiens, 1 million, c'est vrai. C'est soit un chèque, comme ça. C'est marrant, je n'avais pas compté les chèques en contreplaqué. Ah ben oui, c'est nouveau. C'est la banque Dubois du Scie. Dubois du Scie, ça me dit quelque chose. Dubois du Scie, c'est un chèque en bois. T'as reçu un chèque en bois. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Eh ben, tu vas mourir. Tu dis, mais pourquoi j'ai reçu un chèque en bois? Et puis d'un seul coup, tu te rappelles que ton copain, tu l'appelais toujours Dubois. Parce qu'il s'appelait Ilan. Donc comme tu as pris la femme du bois, Hachem il t'a envoyé un chèque en bois. 1 million de francs. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu mérites, tu le mérites. D'accord? Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie la crasse. Donc toi, tu dois bien séparer la crasse et l'acteur de la crasse. Maintenant, l'origine de la crasse, c'est toi, c'est pas lui. Alors pourquoi tu lui en veux à lui pour la crasse qu'il t'a fait? Mais lui, il t'a rien fait, lui. Lui, il est vecteur, il est transporteur. Vous comprenez ou non? C'est comme un livreur, il arrive, il dit, bon, bonjour, je viens livrer, je vais vous livrer, quoi, 40 kilos, ah, c'est quoi, c'est marqué dessus, ah, regarde, il dit, ah, 40 kilos d'excréments, mais ça va pas, oh, tu dis, vous savez, moi, je suis livreur, hein, faut pas me, enfin, je vous laisse ça, parce que dans le camion, ça pose un problème, bon, je voulais, ah, mais j'en veux pas, mais c'est à vous, monsieur, c'est marqué dessus, regardez, hein, tout ce que vous plantez, un jour, vous le récupérez, c'est marqué, ah, bah oui, donc, je vous, chacun, c'est, hein, chacun, ça, allez, monsieur, lui il est livreur. Ça veut dire que l'autre il fait une crasse. Mais lui il est livreur. Tu dis, moi je vais attaquer le livreur. Mais le livreur il t'a rien fait lui, il est livreur. Tu dis, mais il est livreur de son plein gré. Ouais, bon, il est livreur de son plein gré. Mais il est que livreur. Hein. Comprenez ou non? Et l'accapara, ça délivre la personne. Il est livreur. Il dit, je sais plus qui est-ce qu'il dit d'ailleurs. Ouais. Je sais plus. Ouais. Il dit, moi je ne dois pas lui en vouloir. C'est... Je peux pas lui dire merci non plus, il faut pas être cinglé. Il y en a un qui a dit tant l'odjou, mais celui-là, bon, on l'a crucifié pour se rappeler du. On n'a pas dire tant l'odjou. Bah t'as une treha, tu veux le double. Tu dis, ah comme ça, ici déjà celle-là, elle m'a enlevé la verrote, l'autre, elle va me compter comme des mitvotes. Non. On n'est pas comme ça, nous. Hein. Oui, il est mal compris, lui. Il a compris treha shibirtav, treha shibéalpé. Ouais. Nous on pense Torah shibirtav, Torah shibéalpé, Torah ce que tu mérites. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et pas plus. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'un homme, il comprend, quand il lui arrive un problème, le fait que l'autre, il soit acteur du problème, ça... Maintenant, ça ne veut pas dire que l'autre, tu dois lui dire merci, l'autre, tu dois l'encourager. T'as une dignité, tu dois lui dire, stop, mais qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a pris? Mais dans ta tête, tu dois être bien clair. Un bâtard, quand vous frappez un chien avec un bâton, c'est ce qu'il fait le chien? Il mord le bâton, il fait comme ça, le ha mort. Mais c'est toi qui tiens le bâton. D'accord? Maintenant, tu tiens le bâton. Toi, tu mords le bâton. Mais qui c'est qui tient le bâton? La main de Dieu, c'est toi. Parce que toi, tu plantes ici, et Dieu, il te dit, tu manques de mémoire. T'as un devoir de mémoire. Alors, voilà le retour de la mémoire. C'est comme les gens, ils oublient de payer les impôts pendant 10 ans. Ah ben, le fisc, il a une mémoire de folie. Il vient au bout de 10 ans, il y a chez toi qui dit, excuse, mais vous avez oublié ça. Ah oui, effectivement, depuis 10 ans, je me disais, tiens, je reçois plus des nouvelles de mon fisc. Oui, papa, voilà ton fisc, voilà la lettre de ton fisc. Oh, merci, fiston. Oui? C'est pareil ici. Si quelqu'un comprend ça, Ça veut dire que si toi t'as pas de mémoire, Dieu il a de la mémoire. Il a une très bonne mémoire. Il oublie rien. Et si tu vas me dire, et pourquoi il oublie rien? C'est pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est toi qui prends les notes. C'est toi qui enregistres toi-même. Quand tu fais une avéra, tu fais hop, enter. Et Dieu dit, pas de problème, quand est-ce qu'on fait le bilan? Toi tu dis rien. Je veux pas d'enter. Ah ben Dieu il t'enterre. C'est impossible. Il c'est pareil. Un homme, il doit bien être, si vraiment quelqu'un, il a une émouna, il a une croyance en Dieu, il sait que Dieu, il n'envoie rien pour rien. Rien. Si quelqu'un, il dit, moi, j'ai pas la croyance. T'as pas la croyance, mais t'as le sens de la justice. Tu vois, quelqu'un m'a dit, vous savez, moi, je crois pas en Dieu. Je vois pas le rapport. Je lui fais, est-ce que toi, t'as le sens de la justice? Il me dit, ça dépend. Je lui dis, mais est-ce que t'as le sens de l'injustice? Ah, il dit, oh oui, ça. Tout le monde a le sens de l'injustice. Tout le monde! Vous savez ça? Vous savez pas? Vous prenez deux enfants qui sont nés sur une île déserte. Ils n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont jamais été à la fac. Ils n'ont jamais vu un film. Ils n'ont jamais entendu une histoire. Rien. Ils sont nés dans une île déserte, les deux comme ça. Vous les prenez les deux. Vous dites, venez ici. Vous restez une semaine avec eux. Au bout d'une semaine, ils sont habitués à vous. Ah, vous l'appelez Pile, vous l'appelez Paul. Pile et Paul, venez ici. D'accord? À Pile, vous lui donnez un gros paquet de bonbons. Comme ça. Ici. Pile, Israël, c'est un gros paquet de bonbons. Et à Paul, vous lui mettez un coup de matraque sur la tronche. Et bien, vous allez voir que Paul, il va avoir un sentiment d'injustice. Alors moi, je dis, mais je comprends pas. Ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas vu de film, ils n'ont rien appris. Comment ils connaissent le sentiment d'injustice? Ça veut dire que l'injustice, c'est pas une notion culturelle, c'est pas une notion historique, c'est pas une notion psychologique. C'est une notion intérieure à l'homme. D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien, celui qui connaît le sentiment d'injustice, il connaît le sentiment de justice, puisque la justice, c'est le contraire de la justice. Et comment il peut subir l'injustice s'il ne conçoit pas la justice? D'accord? Or, comme tous les hommes du monde conçoivent l'injustice, donc tout le monde conçoit la justice. Oui ou non? Donc tout celui qui un jour il a fait une crasse dans sa vie, même s'il n'est pas religieux, il sait très bien qu'un jour ou l'autre il va prendre une tréha, puisqu'il conçoit la justice. Si vous me suivez. Donc je vais expliquer à ce monsieur, je lui dis, c'est pas une question de religion, c'est une question de conscience. Et tout celui qui a une conscience, il a une religion. Parce que c'est quoi Dieu? Dieu, c'est la conscience supérieure. C'est quoi la Neshama? La Neshama, c'est un récepteur de conscience divine. Maintenant, celui qui refuse d'écouter sa conscience, c'est la même chose que celui qui refuse d'écouter Dieu, parce que Dieu, c'est ta conscience. La preuve, c'est que les enfants, tant qu'ils n'ont pas de conscience, ils ont des parents. Après, quand les enfants deviennent conscients, ils n'ont plus besoin des parents. Maintenant, vous savez qu'un enfant, au moment où il devient conscient, il ne supporte plus la conscience de ses parents. On appelle ça la crise d'adolescence. Et les parents, ils veulent imposer la conscience aux enfants parce qu'ils n'ont pas compris que maintenant, l'enfant, il est en âge de conscience. Donc, quand un enfant, il a des parents, c'est parce qu'il n'a pas de conscience. Et quand un enfant, il n'a pas de parents, c'est parce qu'il n'a plus besoin de ses parents puisqu'il a une conscience. Mais les parents, c'est quoi? C'est le représentant physique de Dieu. Donc, quand un homme a un Dieu, oui, il a aussi une conscience. Entre guillemets, quelqu'un qui a une conscience, normalement il ne devrait pas avoir besoin de Dieu, parce qu'il écoute sa conscience. Mais sa conscience, elle lui transmet quoi? Le message de Dieu. Et si vous allez me dire, c'est un peu des jeux de mots. Non, regarde, je vais expliquer déjà. Un homme, il est fait en trois parties, le corps, le psychique et l'aneshama. L'aneshama, c'est quoi? C'est la conscience de Dieu. Le psychique, il est entre la conscience du corps, qui est l'inconscience. Parce que c'est quoi? C'est quoi un corps sans psychique? C'est un inconscient. Le corps, il est fou sans psychique. Donc quand quelqu'un se rapproche de Dieu, il se rapproche de la conscience. Et quand quelqu'un s'écarte de Dieu, il se rapproche de son corps, donc il se rapproche de la conscience. D'accord? Tu veux la preuve? Tu sais pourquoi tu en veux au type qui t'a fait une crasse? Parce qu'il te regarde. Et quand il te regarde, il te juge. Pourquoi il te juge? Parce qu'il a une conscience. La preuve, tu le reproches à la conscience. D'accord? La preuve, c'est que la seule manière de le pardonner, c'est quand il n'a pas fait exprès. C'est-à-dire qu'il l'a fait inconsciemment. Mais s'il l'a fait consciemment, ça te dérange! Mais puisque ça te dérange que l'autre il a une conscience, c'est parce que tu sais que sa conscience t'observe. Mais sa conscience à lui, elle est représentante de la conscience de Dieu. Donc lui, à travers Dieu, il t'observe. Donc Dieu, il t'observe à travers lui. Donc de la même manière que son regard à lui te dérange, le regard de Dieu devrait te déranger. Pourquoi ça te dérange quand l'autre il t'a vu, et quand l'autre il te regarde, et quand l'autre il te met un coup de pied, et ça te dérange pas? Parce que toi déjà, ta conscience, tu l'as déjà détruite. Donc ça te dérange pas ta conscience à toi. Mais quand c'est la conscience de l'autre, ça te dérange. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait dans la vie, ça ne dérange pas que l'autre lui fasse une crasse. parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait. Donc il sait que l'autre, il est que livreur, distributeur de la bêtise qu'il a fait. Donc il n'en veut pas à l'autre. D'accord? Ah, quelqu'un, il va dire, mais comment je vais réussir à ne pas en vouloir à l'autre, alors que l'autre, il m'a fait une crasse. La Torah, elle a dit, mais Afta, ça veut dire, fais un avec l'autre. Ça veut dire, comprends le bien, mon frère. Toi et l'autre, vous faites un. Donc jamais l'autre, il peut te faire une crasse. En Lagmara, elle a dit, quand cette main-là, elle a fait la coupure, elle va pas refaire la coupure. Tu dis, mais on fait pas un. C'est parce que vous faites pas un que t'en veux à l'autre. Mais si tu disais en vérité, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a nous et Dieu. C'est tout ce qu'il y a. Il y a nous et Dieu. Maintenant, comme tu te sépares de l'autre, donc tu dis, il y a l'autre, il y a moi, il y a Dieu. Donc pour ça, tu crois que l'autre t'a fait une crasse. Mais l'autre, c'est impossible qu'il te fasse une crasse. Parce que l'autre, il est seulement transporteur de ta conscience. Maintenant, quand toi, tu refuses ta conscience, c'est vachement confortable de dire que c'est la faute de l'autre. C'est pour ça que les gens irresponsables, ils ont un très haut niveau de la responsabilité de l'autre. Parce qu'ils sont irresponsables. Alors ils ne comprennent pas pourquoi l'autre, il se comporte pas de manière responsable. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, toi sois responsable de toi-même, ça suffit déjà. Chacun est responsable de lui. Alors Torah dit, tu dois aussi être responsable de l'autre, mais dans le sens positif, pas dans le négatif. C'est pas que tu vas faire porter à l'autre, regardez bien, la responsabilité de ta non-existence. Donc quand quelqu'un il comprend qu'il fait un avec l'autre, il ne peut pas lui en vouloir à l'autre, il va en vouloir à Dieu. Ah mais Dieu c'est quoi? C'est que le reflet de ton existence. Donc tu vas t'en vouloir à toi-même. Donc celui qui accepte les conséquences de ses propres actes, il ne peut pas transgresser l'oticum velotitor. Donc la Torah, elle a dit quoi? Ami Hachem. Ami Hachem. Ça veut dire quoi? Derrière l'autre, derrière celui à qui tu en veux, il y a Dieu derrière. Vous avez compris ou non? Ça veut dire toi tu peux dire à l'autre, ouais pourquoi tu m'as fait du mal? Alors Dieu il pousse l'autre, il lui dit écoute, c'est moi Dieu. C'est moi qui t'ai envoyé la crasse, t'es pas content? De quoi t'es pas content? Est-ce que vous me suivez? C'est comme si moi, j'ai un type qui m'a fait du mal pendant des années, d'accord? Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un voyou, je le paye, je lui dis, toi le voyou, va lui casser la figure. Il va lui casser la figure. Alors l'autre, il dit, toi le voyou, je vais te tuer. Alors moi, je viens, je lui fais, hé, c'est moi qui l'ai envoyé. Alors l'autre, il dit, oh, ah, c'est toi. Il dit, oh, ah, tu veux pas me casser la figure? Parce que tu sais que tu m'as fait du mal pendant 20 ans. Alors moi, je t'ai envoyé ce voyou. Donc t'en veux pas au voyou, parce que c'est moi qui t'ai envoyé la crasse. Ah, tu dis à toi. Ah, tu dis, bah frappe-moi. Elle dit, toi, je peux pas t'en vouloir. Parce que toi, tu m'as fait que du bien. Un beau taille. Moi, je reçois une crasse dans la vie. C'est Dieu qui m'envoie la crasse. Alors moi, je dis, moi, je vais en vouloir au livreur. Le livreur, il dit, moi, je suis qu'un livreur. Alors moi, je dis, je vais en vouloir à qui? Alors Dieu, il vient, il dit, hey, c'est moi l'expéditeur. T'es pas content? Alors je dis, ouais mais quand même, ça m'a fait du mal. Alors Hachem il dit, pourquoi je t'ai pas fait du bien moi? Moi ça fait 40 ans que je m'occupe de toi. Toi ça fait 40 ans que tu te moques de moi. Tu crois que ma patience elle a pas des limites? Moi je te donne la vie, je te donne la santé. T'as vu ce que tu fais avec la santé? Tu la bousilles, qu'est-ce que tu veux maintenant? Je suis mieux que ton père, je suis mieux que ta mère. Et tu te moques de moi. Alors je te dis, Ami Hachem, oh. Tu peux pas raciner. Avec les autres, tu peux t'embrouiller, tu peux dire, attendez, je vais vous expliquer ma version d'été, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. L'autre, c'est un pourri, l'autre. Hachem, il dit, Ani Hachem, eh oh. Eh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière la vie, il y a Dieu. Donc c'est pas la peine de te plaindre de la vie, puisque Dieu est derrière la vie. Ah, tu dis, j'arrive pas. Bon, alors, Dieu, il est en toi. C'est ta conscience. Donc, tu te plains de la vie. Dieu, il dit, eh, Ani Hachem. Alors quoi? Alors, eh. En toi, il y a Dieu, alors. Il y a ta conscience, alors arrête de baratiner. Comprenez-les? Les gens, ouais, j'arrive pas, c'est difficile, j'ai pas aidé, j'ai une vie difficile. Arrête de faire le charlot. On te demande pas plus que ce que tu es capable de faire. Et pour ce que tu as à faire, on te donne les moyens, le temps et les circonstances pour y arriver. Donc de quoi tu te plains? Tu te plains. Tu te plains de ta mission? Tu te plains de ta mission? Elle est adaptée à toi. Ah, tu refuses de voir qu'elle est adaptée à toi? T'es libre, mon frère. Comprenez ou non? Mais tu dis, bon, je suis très bon en maths, mais j'aime pas le sujet. Eh ben, tu rates l'examen, dommage pour toi. Tu dis, mais, ah, mais moi je le rate, et tu vas voir, je vais le rater. C'est ben, Razak. Ah, je vais me venger, je vais leur montrer, moi, toute cette académie, moi. Moi, je me révolte. Non, tu te révoltes pas, tu te plantes. Tu t'es planté, mon frère. Tu t'es planté, personne ne t'a empêché de préparer, personne ne t'a empêché de travailler. Tous les professeurs, ils étaient à ton service, les stylos, ils marchaient, les papiers marchaient, l'école, elle était ouverte, le métro, il marchait, tout marchait. Il y a que toi qui as planté. Maintenant, tu viens, tu dis, je suis en révolte contre le monde. Mi Charlot, mais qui t'a empêché d'exister à toi? C'est ça, Ani Hachem. La Torah dit, l'autre, il s'est acheta bilvavecha. Tu ne dois pas haïr ton prochain dans ton cœur. Ochiar, tochiar. Oui. On a dit, tu dois mettre les choses au clair avec lui. Lotita à la fraîche, tu ne dois pas supporter la faute. Lotikom velotitor, tu ne dois pas te venger, tu ne dois pas garder rancune. Ve'aftalera chakamocha, parce que pourquoi tu ne dois pas te venger? Parce que de toute façon, tu fais un avec l'autre. Et si malgré tout ça, tu refuses de comprendre? Ani Hachem. Regardez la fin de la phrase. Ani Hachem, qu'est-ce que tu veux avec moi maintenant? Ani Hachem. Pourquoi ça se termine par Ani Hachem? Parce que c'est quoi le but de la vie? C'est d'arriver à faire un avec Hachem. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour faire un avec lui. Or un homme, il contient une neshama. C'est quoi le but de la neshama? C'est qu'elle est venue dans ce monde pour faire un avec Hachem. Mais pour faire un avec Hachem, il faut qu'elle passe par le Olam Hazeh, il faut qu'elle passe par le monde matériel. Alors le monde matériel, il est quoi? Il est une mise à l'épreuve pour que tu existes. Quand toi tu existes, c'est ta neshama qui existe. Quand l'autre il existe, c'est ta neshama qui existe. Quand la neshama de l'autre et ta neshama elles existent, on coexiste. Alors maintenant on peut faire un avec Dieu qui existe aussi. Ah tu dis mais Dieu n'existe pas. Évidemment qu'il n'existe pas, parce que c'est toi qui dois le faire exister. Donc toi tu dois faire la religion et tu dois faire l'Antidou Shachem. Quand tu fais la religion, tu fais exister Dieu dans ta vie. Donc Dieu existe dans ta vie. Tu fais exister l'autre, donc l'autre il existe et toi tu existes. Dis-moi les trois points de la coexistence. C'est l'existence de Dieu en fin de compte. Donc Hachem il a dit, pourquoi vous allez faire toutes ces mitzvot de ne pas avoir la haine, de ne pas avoir la rancune, de ne pas avoir la vengeance, d'aimer ton prochain? Pourquoi faire en fin de compte? Pourquoi tout ça? Pour Ani Hachem. Pour arriver à faire Ani Hachem. Ça veut dire quoi? Ani Hachem. On fait un. C'est ça le but. C'est le seul but. Pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi? Parce que moi j'arrive pas à faire un avec moi-même. Alors j'arrive pas à faire un avec l'autre. Alors évidemment que j'arrive pas à faire un avec Hachem. Pourquoi? Parce que j'ai dit la conscience de l'autre, c'est la conscience d'Hachem. Ça me dérange. Ma conscience à moi, c'est la conscience d'Hachem. Ça me dérange. Donc quand quelqu'un il est bien dans sa peau, et il est bien avec l'autre, il est bien avec Hachem. Parce que quand tu es bien avec ta conscience, et tu es bien avec la conscience de l'autre, tu es bien avec Hachem, puisque la conscience de l'autre et ta conscience, c'est Hachem. Donc le principe, il est facile. Il faut que je m'habitue à la différence de l'autre. Il faut que j'accepte que l'autre, il a le droit d'exister. Il faut que j'accepte que l'autre, il aime exister. Il faut que j'accepte d'aider l'autre à exister. Il faut que j'ai le bitachon que si Hachem m'envoie quelque chose, c'est parce que je le mérite. Il faut que j'ai le bitachon que si l'autre, il a accepté d'être le livreur, ça reste qu'un livreur. Il reste aussi que j'ai le droit de me défendre contre le livreur. Je suis pas obligé de m'écraser contre le livreur. J'ai pas besoin de me mettre à quatre pas devant le livreur. Mais je dois pas perdre le bitachon que tout ce qu'Hachem m'envoie, ça vient par lui, ça vient pas d'ailleurs. D'accord? Donc à ce moment-là, moi, puisque je sais que l'autre, il a envie d'exister, donc moi aussi, je vais l'encourager à exister. Donc moi, je vais lui parler de lui-même. Il y a deux choses qu'une personne aime. C'est son nom, et soi-même, et le jeu. Un homme, il aime dire jeu. Laisse-le. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça t'énerve. Ça te dit, ah, moi, j'aime pas les gens qui parlent d'eux-mêmes. Mais toi-même, t'aimes bien parler de toi-même. Alors quand lui, tu lui permets de parler de lui-même, eh ben, ça l'encourage à exister. Eh ben, toi aussi, il va te laisser parler de toi-même. C'est pour ça que quand on se confie à quelqu'un, l'autre il a envie de se confier à nous. Pourquoi? Parce que quand l'autre tu lui as donné le droit d'exister, alors il a envie aussi de te donner le droit d'exister. Alors on appelle ça la communication, on appelle ça la communion. D'accord? Donc moi je vais t'aider à exister, moi je vais t'aider à être, moi je vais t'aider à te développer. Et je vais t'aider à exister, pourquoi? Parce que moi quand je t'aide à exister, toi aussi tu m'aides à exister. Donc quand quelqu'un, il va ne pas transgresser les interdits de la haine, les interdits de la rancune, les interdits de la vengeance, oui, il a créé en vérité quoi? Le plus grand moteur d'existence personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la limite, même quelqu'un qui est égoïste, il doit penser à l'autre. Parce que quand il pense à l'autre, c'est lui qui grandit. À plus forte raison qu'il doit être généreux. Parce que quand il est généreux, il ne met pas d'écran à la bonté. Et comme il ne met pas d'écran, il fait encore une plus grande bonté. Et comme il fait une plus grande bonté, il reçoit encore plus de résultats. Ça veut dire que si quelqu'un il n'a pas compris le bien de la Torah, il a compris au moins le mal. Et bien s'il a compris le mal, il n'a qu'à faire le bien. Parce que c'est les mêmes clés. C'est comme si quelqu'un il a une clé, et on lui dit, ouvre la porte, l'autre il dit, non, je garde la clé. C'est idiot. Donc toi, tu as la clé de l'ouverture de l'autre, et l'autre il a la clé de ton ouverture. Donc aide l'autre à t'ouvrir, et toi aide-le à s'ouvrir. Ça va, c'est ça que c'est ma ça. Tu aimeras ton prochain. C'est quoi, tu feras un? C'est le seul moyen de réussir à faire un. C'est clair?